Bonjour, je suis Steve.
Et Monsieur Honeybunny.
Et vous écoutez Comic City. Épisode numéro 30 de notre podcast, deuxième partie du mois d'avril, et on va s'intéresser à tout ce qui est sorti depuis le 15 environ. Comme d'habitude d'ailleurs, on va commencer par nos news. Première news, c'est malheureusement une assez mauvaise nouvelle. MIG a décidé de stopper complètement sa participation avec Comic City car il n'a plus le temps de s'occuper vraiment du site et surtout de le temps que prend le podcast entre les lectures et l'enregistrement et tout ça. Il est complètement surchargé, ce qui fait qu'il préfère arrêter plutôt que faire un travail de mauvaise qualité ou pas complet. Donc voilà, donc il m'a informé de sa décision et maintenant que je le sais, voilà. Mr. Honeybunny et moi allons continuer toujours Comic City, Claire aussi avec sa participation aux spéciaux. Comic City ne s'arrête pas, mais bon, c'est vrai que c'est toujours dommage de perdre un membre de l'équipe comme ça. Voilà.
Bon, cela dit, effectivement, comme tu le disais, ça s'arrête pas, il y aura même un peu de nouveau aussi, dans quelques temps.
Oui, d'ici quelques semaines, peut-être un mois, peut-être un tout petit peu plus, mais va y avoir des nouveautés sur Comic City en tout cas. Donc voilà, en tout cas, je lui souhaite bon courage avec son emploi du temps surchargé. C'est vrai que c'est surchargé le pauvre. Puis nous, on va continuer nos news sur une note un peu plus gaie, j'espère. Oui, il y a du bon à venir. D'ailleurs, on va commencer avec une mini-série qui va sortir chez Dynamite en juin, qui s'appelle Stargate Daniel Jackson.
Ah oui, quand même.
Ouais, voilà. Donc, on essaye de relancer peut-être la franchise Stargate parce que, alors ceux qui suivent Stargate Universe, qui
Bah,
passe en ce moment
faut
aux
arrêter, faut leur dire
États-Unis,
que c'est fini.
ouais, qui passe en ce moment aux États-Unis sur Syfy, doivent se rendre compte que de Stargate, ça n'en a que le nom de la franchise et absolument pas la qualité, malheureusement. Donc, est-ce un moyen pour eux de peut-être rappeler aux gens ce que c'est vraiment l'univers de Stargate avec des vrais personnages connus de cet univers. Donc je sais pas. Enfin bon, en tout cas la mini-série est faite par Doug Murray au scénario et John Watson au dessin et à l'ancrage. Je sais pas du tout ce que ça vaut, hein, mais moi mon premier avis c'est que bon voilà quoi, ça va pas être quelque chose de forcément super intéressant ni super bon. Mais
Il y
bon.
a déjà eu beaucoup de comics Stargate à ta connaissance?
Non, je sais pas. Je crois que je suis certain qu'il y a déjà eu une mini-série ou deux, mais je pourrais même pas te donner les noms. J'en sais rien. C'est pas du tout quelque chose qui m'attire en fait à lire. Donc voilà. Mais voilà, je trouve ça marrant d'essayer de lancer une mini-série Stargate alors que il y a toujours une série qui passe à la télé, quoi, et qui, Dieu sait qu'elle est critiquée aux États-Unis et à juste raison d'ailleurs, puisque c'est quand même franchement pas bon.
Au fait, là je regarde un petit peu, il y a eu quelques mini-séries Stargate et puis des spin-offs du enfin des épisodes alors je sais pas si c'est des épisodes totalement de la série télé ou inspirés de la série télé, mais il y a eu quelques trucs effectivement notamment en 2000 2003 2004 par là.
D'accord. Je sais pas exactement ce qu'ils veulent faire. Mais bon, voilà, c'était quelque chose d'assez marrant, je trouve, d'essayer de relancer quelque chose dans un univers qui est, en tout cas, à mon goût, en train de totalement se casser la gueule. Voilà, on passe à la suite. Alors ça, c'est assez drôle.
Oui.
Une certaine Madame Delay, Ramona Delay de son prénom, qui vit au Minnesota, a porté plainte à une autorité. Alors je n'ai pas le nom de cette commission qui s'occupe de ça, mais c'est une commission qui regarde les livres pour enfants et en fait elle a porté plainte car son enfant lisait Bone
Ouais.
dans son école élémentaire puisqu'il y avait Bone de disponible là-bas et elle a été profondément choquée et offusquée cette
Oh.
madame parce que il y avait dedans des images de quelqu'un qui buvait et qui fumait.
Mon Dieu. Mon Dieu.
Et ça, c'est terrible dans une école élémentaire. Donc, elle a demandé à ce que ce livre soit retiré. Donc, ça va être examiné par une commission. dont j'ai plus le nom. Donc ça se passe dans le Minnesota. Donc
C'est un petit
voilà.
peu l'homologue de Famille de France, quoi, cette organisation.
Je sais pas du tout, hein. C'est une, je sais que c'est une organisation assez officielle qui s'occupe de regarder ça. En tout cas, depuis 20 ans, il y a eu 20 demandes de retrait de livres comme ça,
Oui.
et seulement 3 livres ont été retirés. Donc, faut savoir qu'il y a sûrement peu de chances pour que ce soit retiré de cette école élémentaire. En tout cas, ils ont la chance de pouvoir lire Beau dans une école élémentaire, c'est plutôt
Oui,
sympa, quoi. Voilà,
c'est pas
moi.
ici qu'on a du bon à l'école, hein.
Ah, je sais pas, moi je fréquente plus les écoles depuis très longtemps.
Oh non, enfin bon, je me rappelle des CDI, c'était pas ça
Ouais.
non plus, quoi.
Non, c'était vrai que c'était
Bref.
pas ça. Mais bon, enfin, ça me fait rigoler, quoi. Enfin, je veux dire, Bone, c'est quand même quelque chose. Alors, il y a des thèmes qui sont adultes, qui sont abordés dedans, c'est certain, mais vu par les yeux d'un enfant, c'est tout à fait lisible, sans souci. Il y a rien de violent, il y a rien de méchant, et c'est tout à fait adapté à un public autant d'enfants qu'à un public d'adultes. Et faire un caca nerveux parce que oh là là, il y a quelqu'un qui boit et qui fume, enfin voilà, on sait qu'on est aux États-Unis, quoi. Donc voilà, bon bah on verra si le livre va être enlevé ou non de cette école, mais enfin je trouve ça ridicule,
Ouais.
quoi. Ah, les États-Unis et leur ouverture d'esprit. Légendaire quand même.
Ouais, bah oui.
Tu avais toi, je crois, des news ciné de ton côté?
Alors, des news ciné justement aux États-Unis, puisqu'il y a eu la sortie de The Losers,
Oui.
donc le adapté du comics d'Andy Deagle et Jock, hein, dont le premier volume est sorti enfin en Big Books récemment en français,
Et qui
donc
fera
avec les deux premiers
l'objet
numéros.
de notre prochain spécial, surtout.
Voilà, ouais.
À
Voilà, ce qu'on
venir
peut dire.
début du mois de mai, normalement.
Voilà. Et donc, bah, la sortie est vraiment, vraiment mitigée aux États-Unis. 9 millions de dollars, en fait, de recettes
Ouh,
les 3 premiers jours, ce qui est pas... Voilà.
extrêmement peu.
Oui,
C'est
c'est...
même ridicule.
Oui, voilà quoi, faut le dire, c'est mauvais quoi, tout simplement. Donc bon, voilà quoi, c'est un nouveau film de Warner. Ils espéraient toucher plus de public avec cette adaptation. Je pense que malheureusement, The Losers, c'est pas encore, il n'y a pas encore assez de, comment dire, c'est pas assez reconnu encore pour que ça fonctionne.
Ah, puis avec The A-Team qui arrive, enfin l'agence Tourisque, le pitch étant assez proche.
Ouais.
Je pense que les gens peut-être sont peut-être dit voilà c'est une espèce de vulgaire copie de l'agence Tourisque et voilà on va pas aller voir ça, on va attendre que l'agence Tourisque sorte réellement quoi.
Ouais, sans doute. Et Kick-Ass est au même niveau, au fait, pour son troisième week-end. Également 9 millions de dollars au box-office.
Ouf.
Donc ça fait en tout à peu près 33 millions de dollars, quoi, depuis le début. Il perd quand même 58% des spectateurs cette troisième semaine.
Ah mais ça fait mal quand même.
Donc voilà, quoi, c'était un mauvais départ. Et bah, là, c'est carrément la chute pour Kick-Ass. Donc qui se fait botter le train, justement,
J'ai
au
vu
cinéma.
qu'ils étaient deuxième au box-office en France, mais j'ai pas eu le temps de voir le nombre d'entrées, malheureusement. J'ai
Ouais,
vu
mais
ça passer
faut voir les
fugacement.
films. Faut voir les films qu'on a en France
Bah,
aussi actuellement.
le premier est en camping, bien sûr, enfin camping 2.
Voilà, donc bon, si Camping 2 est premier, je veux dire, Kick-Ass peut bien être second, hein.
Voilà, donc mais bon, moi j'ai l'impression que c'est pas un grand succès, quoi.
D'autant qu'Iron Man arrive là, cette semaine,
Oui.
demain.
Ah bah là, ça va calmer les gens et. Je pense honnêtement que Kick-Ass a fini sa carrière en France.
Ouais, ça aura pas duré parce que en fait ils auraient dû le mettre plus tôt, hein, je pense, quand même. Une semaine avant au moins, dans les cinémas français.
Ouais,
Parce
peut-être,
qu'on
ouais.
en parle depuis tellement longtemps qu'ils auraient pu se le permettre, et là il a juste profité d'une semaine d'exploitation et après ce sera terminé, clairement.
Il aura peut-être une seconde vie pendant la fête du cinéma, mais j'y crois pas trop. Les gens vont plus aller voir des trucs comme Iron Man pendant la fête du cinéma. Je pense qu'il sera lui de nouveau à l'affiche, c'est sûr. Peut-être même un retour d'Avatar, malgré qu'il soit déjà sorti en DVD. Et puis bah ouais, il aura peut-être une chance de survivre en DVD, mais je suis pas sûr. Hein. Bon, bah on verra bien ce que vont faire les prochaines adaptations de comics en France.
Ouais.
Donc Scott Pilgrim,
Ouais,
notamment.
Scott Pilgrim, bah voilà quoi. Comme pour The Losers, c'est assez hasardeux de sortir un film comme ça dont le public français, enfin que je pense qu'il y a très peu de gens encore qui se sont mis à
The
cette
Losers
question.
aura le même problème que Kick-Ass a eu en ce moment, en tout cas, puisqu'il sort une semaine avant The A-Team. Donc là, c'est clair que ça va pas aller très loin là non plus.
Non, ouais. On a l'impression qu'ils savent déjà que voilà, qu'il faut pas miser gros là-dessus. Ce qui est bête d'ailleurs, puisqu'il pourrait le sortir Entre-temps, quoi.
Ouais, enfin, sortir le film en juin, alors qu'il est déjà sorti aux États-Unis, ça craint un peu, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'ils attendent en plus vachement longtemps.
Enfin bon, bah, on suivra ça et puis on essaiera de vous tenir au courant.
Pour rappel, on a quand même Iron Man une semaine avant les Américains. Donc, faut y aller, quoi, faut en profiter. Faut se dire qu'on a l'exclusivité pour une fois, quoi, c'est bien.
Ouais, on va pouvoir leur spoiler.
Bah oui, ça arrive souvent avec les gros films de super-héros, donc voilà quoi, faut en profiter pendant une semaine.
On va aller spoiler tout le film sur des forums américains.
Exactement. Leur raconter n'importe quoi surtout.
Les mecs ont rien à faire d'autre de leur vie,
Genre Whiplash se fait manger par son oiseau là,
quoi.
à la fin du film.
Pendant qu'on est encore sur le cinéma, Ridley Scott a annoncé, alors ça diverge un peu du monde du comics, mais bon,
Mais ouais, mais il y a un lien.
c'est aussi une franchise comics chez Dark Horse. Donc Ridley Scott a annoncé non pas une, mais deux préquels à Alien.
D'accord.
Ouais, faut voir. Faut voir. Donc ça se passerait en 2085, soit 30 ans avant Ripley, donc dans le premier film. Et par contre, les deux films seraient filmés en 3D façon Avatar.
Ah ouais, d'accord, donc du Alien en 3D, ça pourrait avoir une bonne gueule. Mais par contre, pourquoi faire un truc double? Enfin, je sais pas, à moins qu'il ait quelque chose de vraiment conséquent à raconter.
Ben, je sais pas.
Ou
Je
que le
sais pas
film
du
soit
tout.
court, parce que comme c'est de la 3D, pour rentabiliser, il sort en deux fois, tu vois ce que je veux dire? Genre, deux fois 1h10 de ou 1h20 de film. Je sais pas.
Non, mais c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Enfin, deux préquels, déjà, bon, une, je pense, suffirait largement. Bon, en même temps, ça a le temps de changer encore, hein, comme souvent. Parce qu'on annonce des trucs qui sont même pas en pré-production, puis après, ça change. Mais donc, apparemment, ce serait l'idée, c'est d'en faire deux, quoi. Je suis pas certain de la qualité, en revanche. Parce qu'il y a tellement d'histoires possibles à faire avec Alien, que faire des préquels, je sais pas si c'est forcément une bonne idée.
Ouais, non, c'est clair. Puis surtout, on a plutôt tendance à vouloir ce qui se passe après que
Ben voilà,
à
ouais.
vouloir voir ce qui se passe après que voir ce qui s'est passé, qu'on connaît plus ou moins, quoi, de toute façon. Je pense pas qu'il y ait des révélations extraordinaires à nous faire là-dessus.
Ben, on va savoir comment l'alien est arrivé dans le corps du gars qu'ils ont trouvé, quoi.
Ouais.
Tintin.
Qu'est-ce qui arrive en premier, l'alien ou l'œuf d'alien? Enfin voilà, quoi. Des questions
Existentiel.
existentielles, ouais. On se pose tous les jours.
Voilà. Et pour terminer, notre section news, un insolite. Alors cette fois-ci, c'est pas un objet, mais c'est plutôt une idée.
D'accord.
Batman va au théâtre,
Bah écoute.
mais va se retrouver sur les planches.
Ah ouais, d'accord.
Voilà. Et donc pour le moment, le projet s'appellerait Batman Live. C'est qu'un titre de travail, c'est pas forcément le titre définitif.
Parce que tu sais qu'ils avaient voulu faire un Spider-Man live à Broadway, il me semble.
Oui, bah, qui est toujours en cours d'adaptation pour le moment. Le projet est totalement au point mort.
Ouais.
Avec la musique par Bono, quand même.
C'est vrai en plus,
Oui,
effectivement.
oui.
J'avais lu ça.
Mais je suis encore passé sur le site tout à l'heure pour voir si ça avait bougé, mais non. Peut-être que
D'accord.
le fait de l'annonce de Batman au théâtre va les faire se remuer un peu pour essayer de sortir ça avant eux. Donc le truc serait la sortie serait prévue entre 2011 ou 2012, soit avant, soit après le prochain film de Nolan.
Ouais, soit avant, soit après la fin du monde aussi.
Oui, voilà. L'histoire et le script seraient confiés à Alan Burnett et Stan Berkowitz pour le moment, qui ont tous les deux
D'accord.
travaillé dans les séries d'animation DC et les films DC aussi.
Ouais.
Donc voilà. Et apparemment, donc ce ne serait pas une comédie musicale du tout. Ce serait plus un gros spectacle orienté familial.
Ok, d'accord. Genre la parade de Disney, quoi.
Bah, il y a beaucoup de pièces comme ça qui se montent et qui tournent, qui passent de salle en salle, enfin et de ville en ville, surtout aux États-Unis, et qui sont d'assez grosses productions. Donc en fait, ce serait pas un truc qui serait senti à Baudry, parce que en fait, ça ferait de Batman le premier personnage DC à avoir un truc au théâtre qui se déplacerait de ville en ville. Parce qu'il y avait déjà eu un essai avec DC, c'était sur Superman à Broadway en 1966.
Ah ouais.
Et ça s'était assez vite cassé la gueule. Au bout de quelques mois, il y avait plus rien parce que
Parce que le
mauvaise
théâtre a brûlé, en
critique.
fait.
Non, mauvaise critique. Et puis bah voilà quoi. Pas forcément de très très bonne qualité. Mais c'était un truc fixe qui est resté uniquement dans la même salle à Broadway pendant plusieurs mois. Là, ce sera vraiment une tournée. Apparemment, La boîte qui se charge de l'adaptation a déjà travaillé sur une autre pièce qui s'appelait Walking with the Dinosaurs. Et j'ai pu voir quelques vidéos sur YouTube et c'est de la production à très très gros budget quoi.
D'accord, ok.
Ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'assez explosif. Alors s'ils utilisent
Avec
un
de
peu
vrais dinosaures, faut préciser sur scène.
oui, vraiment en plus, enfin,
Oui,
sauf
non, mais
que
bien
c'était
sûr.
des gens costumés dedans, mais c'était vraiment les costumes des dinosaures, et c'était que des dinosaures qui se fight, enfin voilà, il y avait pas mal de trucs. Et en tout cas, c'était assez impressionnant de ce que j'en ai vu. Donc ça peut donner quelque chose d'assez sympathique, comme ça peut être totalement foiré, là encore une fois. Faudra voir. Mais je
Ok.
trouve ça assez assez bizarre comme idée de faire Batman au théâtre. C'est pas forcément le personnage que j'aurais mis au théâtre.
Ouais.
Surtout dans un truc familial en fait.
Ouais, enfin bon, après faut voir les décors, faut voir.
Mais moi c'est le côté familial qui me gêne. C'est le côté peut-être de la noirceur de Batman qui va pas ressortir forcément et
S'ils font un truc à la Tim Burton, enfin bon, est-ce qu'on peut dire que c'est familial? Je sais pas. Moi, j'avais vu ça, j'étais assez jeune.
c'est quand même assez noir, hein.
Ouais, mais bon, c'est pas. Je crois pas que ça ait été interdit. C'était pas interdit au moins de 12 ans, les Batman de Burton.
Alors là, par contre, je sais plus du tout.
En tout cas, j'étais allé voir les deux quand j'étais plus petit, quoi, de toute façon. Donc, j'ai vu les deux au ciné, donc, ouais.
Donc bon, on verra bien. En tout cas, je vais suivre ça quand ça bougera un petit peu, mais voilà, l'idée est assez marrante quand même. Ok, bon bah je crois que ça clôt notre section news.
Ouais.
Tu n'avais plus rien en stock?
Non, rien du tout.
Non. Bon, bah ouais, petite quinzaine de news, hein, pas grand-chose.
Enfin oui, ici, bah y a des
Mais
choses,
il y a
mais
beaucoup de
comme
choses, mais
d'habitude.
des choses à spoiler, donc on n'en parlera pas.
Voilà,
Voilà.
ouais.
Voilà, donc dans les news qu'on peut parler, qui sont surtout sur l'autour du comics, pas grand-chose, malheureusement, cette quinzaine. Bien, et donc maintenant, bah, on va s'attaquer à nos reviews. Et on va commencer par Superman Batman numéro 20. C'est donc le dernier numéro de Superman Batman. La revue s'arrête avec ce mois-ci et elle reviendra en juin sous un autre titre et s'appellera Batman Universe. Et sera donc, bien sûr, comme son nom l'indique, centré uniquement sur Batman.
Ouais, puisque Superman se sera dispersé un peu partout en fait.
Bah, principalement en librairie, en fait.
Oui, ce sera en librairie, mais à travers plusieurs gammes de livres.
Jusqu'à la fin de l'année, et peut-être un retour en kiosque l'année prochaine.
Ah, y a quand même un hors-série avec la saga Brainiac en août, je crois.
Ouais, bah ouais, j'espère. Parce que c'est quand même un des meilleurs trucs que j'ai pu lire de Superman depuis très longtemps, donc
Normalement c'est sûr quoi, mais bon.
on en parlera d'ici là de toute façon.
Voilà.
Le premier épisode de ce Superman Batman, donc c'était le Batman 681, qui est la fin de l'arc RIP.
Ouais.
RIP en anglais. Hein. Scénario Grant Morrison, dessin Tony Daniel, ancrage Sandu Florea. Bien, bah c'est la fin de RIP et Batman n'est pas mort.
Ouais, voilà, déjà, premier problème.
Bah oui, voilà, c'est un assez gros problème parce qu'on nous l'a vendu comme la mort de Batman et finalement, bah il n'en est rien.
Non seulement il n'en est rien, mais en plus, ça n'a aucun rapport avec la mort de Batman, puisque finalement, la manière dont il meurt. Bah, c'est pas du tout celle-là et ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans RIP, de
Alors,
près ou de loin. Il n'y a aucun lien en fait.
à savoir ensuite si est-ce que Grant Morrison n'avait pas prévu de faire mourir Batman dans le crash de l'hélicoptère et que DC lui a dit non, 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 il faut que tu fasses mourir dans Final Crisis pour que ça fasse un gros event, quoi.
Bah, je pense pas parce que on en parlera tout à l'heure, mais avec ce qui se passe dans Final Crisis et la manière dont il disparaît, là avec le crash d'hélicoptère, ça aurait pas eu le même impact du tout. Il aurait pas pu se retrouver là où tu sais. Enfin, voilà. Puis bon, en plus ça manque vraiment de panache quoi. C'est surtout ça. La fin de Batman RIP, c'est vraiment le pétard mouillé. Hein, c'est le cas de le dire. Ça tombe à l'eau totalement.
Moi, ce que je trouve, enfin, voilà, j'ai trouvé dommage. Enfin, j'ai pas apprécié l'arc en général. Donc voilà. Là, du coup, c'est la deuxième lecture que je lui fais puisque je l'avais déjà lu quand c'était sorti et je le trouve un peu mieux qu'à la première lecture, mais enfin voilà, ça me satisfait vraiment pas.
Ouais, moi j'ai préféré nettement le démarrage de, enfin ce qu'il a fait au début de son run. Et là, clairement, tous les pions qu'il met en place, bah finalement, voilà, ça, ils accouchent tous d'une souris. Hein, c'est grosso modo, il se passe rien. Il se passe rien. Il n'y a aucune révélation. Le docteur Hurt était bien le méchant. Voilà.
Oui.
qui se faisait passer pour le père de Bruce. Donc on se doutait bien que, bon, heureusement ou malheureusement, c'était pas lui, de
Moi,
toute façon.
je dirais heureusement parce que ça aurait été vraiment touché au mythe fondateur et un peu trop là.
Ouais. Enfin bon, on aurait pu nous faire douter un peu plus, tu vois, créer une espèce d'intrigue, tu vois, qui aurait expliqué que ça pouvait pas être lui parce que ceci, cela, mais enfin, tu vois, un truc un peu plus fouillé, quoi. Parce que là, là, c'est vraiment. Puis même la fin, quoi, les dernières pages, c'est vraiment, comme diraient les Américains, c'est anticlimatique, hein. C'est.
Non mais bon, enfin, après il y a ce qui sauve un peu, je trouve, malgré tout, ce sont les dessins de Tony Daniel.
Ah oui, alors bon, faut préciser que Tony Daniel aussi se mettra au scénario dans quelques temps.
Il aura
Je sais
l'occasion.
pas trop ce que ça va donner, mais par contre, bon, il a l'air d'être assez à l'aise avec l'univers de Batman et effectivement, son graphisme colle bien à Batman et est
Ben, on
vraiment
verra ça
parfait.
dans la revue Batman Universe.
Voilà.
Il y a une ou deux splashes qui sont quand même super belles, celle où Batman ressort de terre, je la trouve vraiment magnifique.
Ouais.
Et puis bah celle où il y a Nightwing qui tient la cape.
D'accord,
Voilà.
ouais, ok, ouais.
Il y a ce côté symbolisme. Mais bon voilà, enfin, moi je suis déçu dans l'ensemble de ce truc-là, quoi. Je m'attendais à mieux.
Oui, puis surtout pour un dernier numéro, au fait, il n'y a aucune révélation, il n'y a rien quoi dans ce numéro-là qui rajoute à l'intrigue. On sait que Jezebel Jett, bah, c'était une traîtresse. D'ailleurs, je suis pas sûr de. Je me souviens plus qu'est-ce qu'elle devient, ainsi que tous les hommes d'affaires là à la fin.
Bah, elle meurt. Elle est attaque. Enfin, son avion est attaqué par des
Ah oui,
chauves-souris
c'est vrai,
géantes.
oui, par des chauves-souris,
Des
oui,
chauves-souris géantes qui ressemblent énormément à Man Bat d'ailleurs. On dirait une armée de Man Bat.
ouais. Bah écoute, ouais, je sais pas. Enfin, c'est assez bizarre. Et le Joker, on sait pas trop. Alors, il arrive à s'échapper finalement.
Bah, le Joker, je sais pas exactement ce qui lui arrive, honnêtement. Je
Ouais.
pense qu'il s'est
C'est un
échappé.
peu le problème avec la narration de Morrison, c'est toujours on a toujours l'impression de louper des trucs. Donc bon, on y reviendra tout à l'heure sur Final Crisis, parce que c'est encore pire, mais déjà là, tu vois, on a l'impression qu'il manque quelques planches par moment, qu'il manque des choses, quoi.
C'est
Donc
bizarre.
ouais, c'est bizarre. Alors certains diront que c'est voulu et que c'est tout à fait normal, mais enfin moi ça me dérange, quoi, quand je lis un comic, c'est que j'ai l'impression qu'il manque un élément, c'est quand même problématique.
Ben en fait voilà, c'est soit on aime, soit enfin on aime et on accroche au style Morrison, soit on n'accroche pas. Malheureusement, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à accrocher. Et voilà. Et honnêtement, je suis assez content qu'il s'en aille de Batman. Et que les rênes passent à quelqu'un d'autre. Alors, il revient sur une prochaine série qu'il y aura dans les pages de Batman Universe qui s'appelle Batman et Robin. Mais que ce soit plus lui qui soit en charge du titre Batman, vraiment, bah personnellement, je trouve que c'est peut-être un plus, quoi. Parce qu'il a fait des bonnes choses,
Bah déjà, Batman et Robin,
mais
à
voilà.
l'air, je dis bien à l'air parce que je ne suis pas totalement rentré dedans encore, mais à l'air plus réussi.
Bah, c'est déjà un peu moins barré, je trouve. Honnêtement. Donc, bon. Voilà. On passe au 682 et 683. Bah, toujours au scénario Grant Morrison. Au dessin, cette fois-ci, on retrouve Lee Garbett et à l'ancrage, Trevor Scott. Bah, en fait, c'est grosso modo ce qui s'est passé entre Final Crisis numéro 2 et Final Crisis numéro 6. Où était
Voilà.
Batman depuis que Darkseid l'avait enlevé?
Voilà. Sachant que, pareil, hein, si on fait pas attention, on oublie même qu'il a été enlevé, au fait.
Ah, honnêtement, j'avais oublié, moi.
Ouais.
Sur le moment, j'avais oublié quoi.
Je sais même pas si tu vois une planche où tu le vois se faire enlever dans Final
Non,
Crisis.
du tout.
D'accord.
Dans Final Crisis, je sais pas, j'ai pas re-regardé, mais dans celui-ci, non, on voit rien quoi.
Ouais, en tout cas, ça me dit rien du tout. Bah, dans celui-ci, oui. Mais parce qu'en même temps, ça sert un peu l'intrigue où au début, on se demande ce qui se passe et on comprend pas tout.
Et d'ailleurs, à la fin, on se demande même un peu comment il s'échappe quoi.
Et voilà,
On n'est
par
pas.
exemple, tu vois,
On
quand je
arrive à
disais.
comprendre en regardant deux, trois fois la planche, mais il n'y a pas de certitude.
Oui, voilà, c'est ce que je te disais avec sa narration. On a l'impression qu'il manque des images. Et là, à la fin, bon, moi, ma déduction, c'est qu'effectivement, il s'échappe de la machine, mais on le voit pas s'échapper. Donc, on voit juste une image comme ça. Alors, est-ce qu'il est
Bah,
toujours
il ouvre
en.
les yeux en fait, on le voit se réveiller, quoi. Donc après, on s'imagine bien comment il va sortir.
Ouais.
Vu qu'il est sorti pareil un petit peu du cercueil dans lequel il était dans le 681 quoi, mais on n'a pas de certitude quoi.
Ouais. Non, mais c'est ça qui est un peu bizarre. On a l'impression qu'il laisse. Le lecteur libre, le lecteur de tirer ses propres conclusions. Mais justement, tu vois, c'est un peu bizarre quoi, comme procédé à chaque fois, puisque...
En fait, c'est qu'il laisse peut-être un peu trop le lecteur tirer ses propres conclusions. Qu'on laisse le lecteur tirer ses propres conclusions, c'est pas gênant. Mais un peu trop, comme il le fait, je sais pas. Est-ce vraiment au lecteur de faire tout le boulot pour essayer de comprendre ce qui se passe? Alors, que le lecteur essaie de comprendre, d'accord. Ça nous rend actifs en même temps que la lecture, je trouve ça normal. Plutôt qu'être complètement guidé ou finalement, bah, on s'emmerde, quoi. Mais là, c'est peut-être trop et du coup, on se sent perdu. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Voilà, c'est le problème de Grant Morrison, quoi. Dans ces deux épisodes, en fait, il est dans cette machine qui sert à essayer de fouiller sa mémoire pour essayer de se rendre compte qu'est-ce qui donne cette force de caractère à Batman et essayer d'implanter tous les souvenirs qui font qu'il est aussi résistant et aussi fort mentalement pour en faire une armée pour Darkseid. Et donc on revoit beaucoup de souvenirs. C'est une espèce ouais de comment dire? Et j'en trouve plus le mot. Et voilà.
Épisode flashback, je sais
Ouais
pas.
non. Enfin c'est en gros une sorte de résumé de toute sa carrière. Un peu comme un peu comme une, ah mince, je vais pas retrouver le mot. Ça ça m'ennuie là.
Un récapitulatif, un
Ouais. Enfin
best-of.
les le discours que l'on fait à l'enterrement de quelqu'un quoi. Voilà.
Ah oui, merde.
Et voilà, toi aussi.
Oui, moi aussi.
Donc voilà, enfin.
C'est pas son épitaphe, c'est son...
Ouais, bon, enfin, vous comprendrez. Enfin, vous comprenez, je pense, à peu près l'idée laquelle je veux parvenir. Et voilà, c'est en gros, on nous annonce déjà avec cet épisode-là qu'il va mourir, si on regarde bien.
Ouais.
C'est grosso modo le résumé de la vie de Batman, avec certaines pistes fausses, puisqu'on essaye de lui faire croire autre chose, etc. Mais on a grosso modo un résumé de tout ce qu'a fait Batman dans sa vie. Et voilà, quoi. Genre, un tour d'honneur avant de disparaître.
Bah, moi je trouvais que enfin effectivement il y a énormément de références. Par exemple, on assiste à l'arrivée du premier Robin, à l'arrivée de Jason Todd, et puis ensuite à l'arrivée du troisième Robin,
Tim
Tim
Drake,
Drake.
ouais.
Non, c'est assez bien foutu parce qu'il y a un maximum de références. Il y a des
Ouais.
références par exemple aux espèces de monstres du Ghost Range qu'affronte Batman dans les premiers épisodes de
Bah,
Death
y a
Detective Comics.
même la référence avec le tout premier épisode où on voit discuter avec Gordon et qui lui dit, oh là là, un homme chauve-souris, mais vous dites n'importe quoi.
Voilà, ouais, par exemple et tout. Non, moi franchement j'ai trouvé ça pas trop mal, assez sympa en fait à lire ces deux épisodes, surtout pour ces scènes-là. Et puis ouais, donc par exemple, ce qui est aussi assez bien fait, c'est que Morrison arrive à faire le lien entre son histoire et puis des vieux trucs. Par exemple, il lui dit, enfin à un moment il veut rentrer dans une cellule et ils disent que c'est là où étaient enfermés donc les fameux monstres de Strange, etc. Donc je trouvais ça assez marrant comme idée quoi de lier un peu. En fait, les intrigues récentes et puis des vieilles choses quoi du passé. Mais en fait, moi, ça m'a fait penser pas mal ces deux épisodes à du X-Men Legacy, le côté introspection du personnage et puis scène de flashback, etc.
Ah, j'ai pas trouvé, moi, mais bon, ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai pas eu cette impression-là, en fait.
Bah, tu
Et
vois
c'est peut-être parce
dans
que je
le
les ai déjà lus aussi il y a longtemps, donc.
Procédé narratif et dans le style, c'est un peu ça quoi. Tu vois, t'as un personnage qui en fait, qui est mis face à lui-même et puis qui repart dans ses pensées et puis on voit des flashbacks, etc. C'est un petit peu le même procédé quoi, appliqué à Batman cette fois-ci.
Ah. Je dois dire quand même que je les ai. Enfin là pour moi c'est la deuxième lecture et je les ai quand même plus appréciés à la deuxième lecture qu'à la première. La première fois que je les avais lus, je m'étais dit mais c'est lourd quoi. Donc encore une fois, j'ai l'impression que Morrison faut le lire deux fois pour arriver à apprécier un peu plus.
Disons que là, contrairement à certaines fois avec Morrison, on comprend bien ce qui se passe et on comprend bien où il veut en venir. Bon, par contre, effectivement, une histoire où Batman est dans une machine et où il vit une vie qui n'est pas vraiment la sienne ou qui a des trucs un peu changés, etc. C'est un petit peu du déjà vu. On a déjà vu
Bah,
des histoires comme ça.
j'ai aussi un peu l'impression qu'il se répète déjà avec Rip, quoi. Avec ce Batman de Zorena, où il sait plus exactement qui il est, etc. Que là, dans ses souvenirs, il sait plus ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. On le voit dans une réalité où si ses parents n'étaient pas morts, s'il n'avait jamais été Batman. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça. Et
Alors, je ne sais pas si ces deux épisodes étaient prévus dès le début ou s'ils ont été rajoutés parce qu'il y avait des délais sur Rip, sur euh, sur Final Crisis qui n'était pas respecté.
J'en ai aucune idée, honnêtement, je sais pas, je me suis pas renseigné là-dessus.
Parce que ça fait un petit peu, tu vois, épisode rajouté à la dernière minute. Et bon, bah, c'est voilà quoi, c'est sympa à lire. Disons que j'ai préféré ça à la fin de Rip quand même. C'était
Oui, moi aussi.
voilà. Enfin voilà quoi, c'est sympa à lire, mais c'est pas, ça n'apporte pas grand-chose.
Non, c'est pas, pour moi, c'est pas du grand Batman, hein.
Non non
On en
non
est
non,
très
c'est pas un
loin.
truc dont on se souviendra longtemps quoi.
Bah, pour oui et non, ça restera dans les mémoires malgré tout, quoi. Mais peut-être pas pour les bonnes raisons.
Ouais.
On va passer au dernier épisode du Max, c'est le Superman Annual numéro 13, enfin la deuxième histoire du Superman Annual numéro 13 qu'on avait déjà eu en français pour l'arc Camelot Falls, qui est elle aussi écrite par Kurt Busiek, accompagnée de Fabian Nicieza. Au dessin, on retrouve Renato Guedes et à l'ancrage, José Wilson Magalhães.
Ouais.
Bon alors, c'est une espèce de petit backup qui, honnêtement, n'apporte rien, mais que j'ai trouvé super sympa.
Ouais, non, voilà, c'est dépaysant et c'est rafraîchissant. Après les histoires de Batman, ça fait du bien.
Ouais, voilà. Autant d'un côté, il a bah, Batman qui est complètement esseulé. Bon, il y a comme le Club of Heroes, Robin, Nightwing qui l'aide, tout ça, mais dans les deux derniers épisodes, on voit un Batman complètement tout seul, qui revit ses souvenirs, mais qui est finalement tout seul. Et là, c'est Superman et toute sa famille, quoi. Donc il y a les parents, il y a Loïs, il y a Chris, il y a Supergirl, il y a Crypto.
Voilà, qui partent en vacances ou plutôt
Un pique-nique en fait d'une
en
journée, quoi.
pique-nique, ouais, un dimanche sans doute, sur une planète.
Et non, franchement, moi j'ai trouvé ce truc super sympa. C'est vraiment plaisant à lire et je l'avais lu déjà à l'époque de la sortie. Et là, je l'ai relu et j'y ai repris autant de plaisir. Franchement, une bonne petite histoire sans prétention, mais voilà, un moment familial qui est sympathique.
Et des dessins aussi qui sont sympas, je trouve que j'aime bien ce style.
Moi, je suis pas un grand fan du dessin, mais on s'y fait super rapidement en fait. Je suis pas un grand fan en fait des visages
Ouais.
notamment les visages des Kent et de surtout de Ma Kent. Je trouve, je sais pas.
D'accord. Moi ça m'a. Non, moi ça m'a plutôt enchanté. C'est un peu le jour et la nuit, quoi, avec Batman, c'est le cas de le dire, mais.
Ouais. Ah par contre niveau floral et au niveau de tout ce qui est décor et tout, non c'est nickel. Par contre là il n'y a aucun doute quoi. Donc voilà bon c'est pas un truc sur lequel on peut s'attarder, mais en tout cas c'est super sympa à lire et. Ça fait du bien après des épisodes assez noirs de Batman comme ça d'avoir quelque chose d'aussi bon quoi. Enfin
Ouais, ça.
d'aussi frais en tout cas.
Voilà, ça fait passer la pilule.
Ok, bah voilà, donc Superman Batman s'achève et on reverra en juin un numéro spécial Batman. On passe maintenant au numéro suivant, enfin au max suivant de chez DC, c'est le DC Universe hors série numéro 17. Ce numéro hors série, c'est la fin de Final Crisis. Et donc, on retrouve dans le premier épisode le Superman Beyond numéro 2, la suite de ce qu'on a vu il y a 2 mois. Scénario de Grant Morrison, et là c'est encore une fois, c'est le mois Grant Morrison d'ailleurs sur le kiosque DC, hein.
Ouais.
Il y a que lui au scénario. Au dessin, on retrouve Doug Mankey, et à l'ancrage, Christian Alamy, Tom Nguyen, Drew Geraci, Derek Friedolfs.
Ouais.
Bon. Alors, honnêtement, ça va être super rapide là. C'est quoi ça? Sérieusement,
Ouais.
c'est totalement illisible.
Je sais pas. En fait, je me demandais si t'avais compris plus que moi ce que c'était, ce que ça voulait dire.
Non, mais enfin là, c'est vraiment du grand n'importe quoi.
Autant la première partie, je voyais à peu près, mais là, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Déjà, tu m'as expliqué plus ou moins ce que c'était cette espèce de monstre chauve-souris qu'affronte Batman.
Oui, c'est un moniteur vampire en fait.
Voilà. Bon, pourquoi un monitor vampire? Je sais pas si ça existait avant, mais bon, bref. Mais franchement, enfin, la narration, tout, c'est incompréhensible, incompréhensible.
Bon, cette fois-ci, déjà, ils n'ont pas imprimé en 3D, hein, apparemment,
Voilà, oui,
d'après ce que tu m'as
déjà.
dit.
Ouais, non, il n'y a pas de page 3D, donc c'est déjà un progrès.
Mais bah, c'est ce qu'on se disait un petit peu avant le podcast, quand on en parlait rapidement, pour voir si nos avis étaient les mêmes ou pas. Franchement, moi, je pense que là, cette fois-ci, au lieu de livrer des lunettes 3D, ils auraient dû livrer une barrette de shit. Ça aurait peut-être permis de mieux comprendre ce qui s'y passe. Non, parce que franchement, honnêtement, pour moi, c'est les délires de quelqu'un qui est totalement sous influence, quoi. Et qui
Oui.
rêve de mondes totalement bizarres où la compréhension est... Non, non, franchement, moi, j'y comprends rien. Alors, je suis peut-être quelqu'un de trop terre à terre, Pourtant, j'ai pas l'impression.
Non, non.
Ou alors, je suis peut-être totalement con. Hein. C'est possible aussi. Et je me rends
Mais
pas
alors,
compte.
je pense que... Ben, je
Bon.
sais pas, quoi. Si, s'il y a des auditeurs qui ont compris vraiment ce que ça voulait
Voilà.
dire, ce charabia.
Expliquez-nous, s'il vous plaît.
Voilà, décryptez-nous, même une seule page, tu vois, on pourrait pratiquement faire un jeu, décrypter une page de Batman, de Superman Beyond, et puis...
Non, mais enfin, la finalité est là, quoi. Enfin, finalement, Superman s'en sort, il sauve Lois. Voilà. Et en route vers Final Crisis numéro 7.
Super.
Ouais. Non, enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça totalement inutile.
Et raté
Inutile.
surtout, puisque il n'y a pas un moment où j'ai douté du fait que Loïs pourrait s'en sortir, quoi. J'étais sûr qu'elle allait s'en sortir à la fin. Donc déjà, ne serait-ce que ça, sur une intrigue comme ça, bah c'était complètement raté. J'ai pas. Tu vois, par exemple, quand dans Civil War, on se demande si Tante May va y passer, bon bah là on doute vraiment. Mais là, pas une seconde, je me suis dit que Lois Lane allait y passer, quoi, durant Final Crisis. Donc déjà le travail de Morrison est foué, quoi, là-dessus.
Ouais, bah, je sais pas, non mais là il s'est fait plaisir quoi. Moi, honnêtement, ce qui me fait un peu peur, c'est de savoir que Grant Morrison va faire une série chez DC qui va parler du multivers. Moi, ça me fait
Ouais,
peur. Voyant ça me fait super peur. Je me dis que ça va être totalement incompréhensible.
c'est clair, parce que. Mais heureusement qu'il n'est pas sur Superman, parce que là, en fait, ça nous a permis de voir ce que donnait Morrison sur Superman. Alors déjà sur Batman, bon, c'était limite, mais alors sur Superman, là, ouf, là il s'envole, il découvre des mondes inexplorés par l'homme, hein.
Ouais, enfin, je sais pas. Moi, on va parler de Final Crisis dans quelques secondes, mais moi, ma conclusion au truc, c'est pitié, ne filez plus jamais un event à Grant Morrison. Pitié.
Ouais.
Non, là,
C'est.
c'est pas possible. C'est
Ouais,
franchement
non,
pas possible.
c'est
Si
incompréhensible.
on écrit pour faire quelque chose de totalement élitiste que seuls certains peuvent comprendre, et quand je dis certains, je crois que c'est même pas au pluriel, c'est lui-même et à la rigueur ceux à qui il explique ses concepts. Bah ouais, bah ça vaut pas le coup de faire un event quoi. Enfin, écrire un truc pour que personne ne comprenne et dire regardez ce que j'ai écrit, personne ne me comprend. Franchement, c'est complètement crétin quoi. C'est un jeu de gamin de 5 ans ça. Donc
Bon, en
voilà,
tout cas,
non.
son Superman Beyond, voilà, c'est incompréhensible,
Bah,
et ça n'a aucun intérêt.
si là il est à l'apogée de sa carrière, en tout cas si c'est comme ça qu'il voit les choses, je sais pas, hein, je dis ça un peu en l'air, mais si pour lui c'est son meilleur travail. Bah pitié qu'il fasse de la merde alors, parce que ce sera plus facile à lire.
Ouais.
Ok, bon, on va attaquer Final Crisis numéro 6 et 7. Donc scénario Grant Morrison, et alors il y a beaucoup beaucoup d'artistes sur le 6 et le 7 à cause de problèmes de délai. Bah, sur le 6 on retrouve JJ Jones, Carlos Pacheco, Doug Mankey qui signe aussi tous les dessins du 7e, Marco Rudi, Christian Lamy, Jesús Merino. Bon voilà, beaucoup de monde, plus quelques encore, je vais pas tout citer, ça va être trop long sinon.
Ouais.
Donc voilà, bah première réaction, ça y est, c'est fini.
Enfin.
Et donc bah voici la mort de Batman.
Vite expédié, en 3 pages, je crois, un truc dans le genre.
Bah voilà, le rayon Oméga et pouf pouf, ça pue.
Ouais. Le rayon Oméga et puis Batman qui arrive quand même à asséner à Darkseid une attaque qui va lui être fatale, à savoir une espèce de balle. D'antimatière, non, je sais
Bah,
plus.
un truc qui permet d'empoisonner Darkseid. Déjà, on voit Batman utiliser un flingue, une espèce de boucle avec les tout premiers épisodes où il était armé, en fait.
Ou ouais, enfin, même ça, tu vois, j'ai trouvé ça bof, quoi, comme
Et
idée.
puis en fait, il utilise le stratagème de Darkseid pour avoir qui a tué Orion, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, oui.
Donc non, bah, c'est le côté, je fais des boucles, tout se rejoint. Moi, je sais pas.
Bof, oui. Moi, ça me convainc pas du tout. Et utiliser la technique de Darkseid pour le vaincre, bah, c'est pas, voilà quoi, c'est un petit peu.
Le problème, en fait, c'est que sur l'ensemble, c'est trop confus. Autant les 3 premiers épisodes de Final Crisis étaient à peu près compréhensibles, mais
Et
là,
encore, moi, je te disais, hein, j'avais l'impression de louper des choses à chaque fois, de voir, enfin, de justement de ne pas voir certains trucs et.
honnêtement, moi, je suis totalement embrouillé, quoi. Donc,
Ouais, non, mais puis même, il y a des personnages auxquels Morrison donne de l'importance, Tu vois, il y a des trucs qu'on a l'impression de rater, et puis il y a des pages qui semblent totalement inutiles. Par exemple, les pages avec les héros japonais là. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Est-ce qu'ils ont leur série ensuite? Je sais pas quoi. Et puis.
Ils ont il y a Final Crisis Aftermath qui sort et normalement ensuite, alors je pense pas qu'on les aura en français, il y a quatre mini-séries en 6 parties, et dont une sur ces super-héros japonais.
D'accord, non mais parce que ok, et il y a aussi des types là avec des têtes de tigres.
Ça c'est la peluche de Captain Marvel.
Oh non mais alors ça par exemple, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, d'un seul coup, il y a toute une page, enfin même plus d'ailleurs, où il y a un truc avec eux, je comprenais rien du tout, je savais pas de quoi il s'agissait.
Mais il a voulu aller chercher en fait tous les concepts les plus anciens et les plus presque ridicules en fait pour les faire ressortir, mais voilà, enfin il embrouille plus qu'autre chose et moi honnêtement j'ai pas le courage de le relire les deux là pour voir si j'arrive à mieux comprendre après les avoir déjà lus une première fois. J'ai vraiment pas le courage. Je suis pas
Bon,
prêt de le faire.
il y a juste le retour donc de Barry Allen et de l'autre, c'était Wally West, je crois, qui court avec lui. Ils sont poursuivis par cette espèce de chevalier qui, au fait, un
Symbolise la
gardien du
mort.
temps ou je sais pas quoi là.
Symbolise la mort, en fait.
Ouais. Et bon, qui traverse le temps et qui finalement, ils se servent de lui pour comme projectile contre Darkseid.
Voilà.
Donc ça, bon, à la rigueur, j'avais trouvé ça marrant, mais bon, enfin voilà quoi, c'est le seul moment, enfin dire que c'est le meilleur moment du truc, quoi.
On a aussi le retour de ce moniteur vampire qu'on avait vu dans Superman Beyond qui arrive. Et en fait,
Oui, en
c'est là
plus.
peut-être qu'il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a trop de concepts. C'est-à-dire, on a Darkseid et les New Gods qui sont, notamment Darkseid qui est censé être l'ennemi ultime, machin. Et puis, sur ce, débarquent les moniteurs qui servent plus à embrouiller. Alors, ok, les moniteurs, Crisis, etc. D'accord. Mais c'était peut-être pas la peine de les rajouter là parce que ça sert plus qu'à embrouiller.
Oui, on a l'impression que c'est effectivement une page, un concept.
C'est un peu ça, ouais.
J'exagère à peine, quoi, tu vois. Donc du coup, c'est un aspect totalement décousu. Et bon, voilà, quoi,
Et là
c'est très
encore,
difficile.
avec les moniteurs, il essaye de nous faire une boucle, puisque les moniteurs décident de ne plus s'occuper de surveiller les terres, etc. Et il les réincarne sur Terre dans des corps humains, un peu comme les New Gods avaient été réincarnés.
Ouais.
Il essaie de nous faire des boucles comme ça, mais enfin, je sais pas, moi ça, pour moi, ça prend pas.
Non, mais
Je
voilà quoi.
n'y arrive pas vraiment.
Trop de concepts tue le concept, et le problème aussi, c'est que il y a tellement de personnages qu'on s'attache pas aux personnages du coup.
D'ailleurs, moi, la question que je me pose à la fin de la lecture du 7, c'est du coup, ces fameux dieux du cinquième âge, qui sont-ils? Est-ce que ce sont les héros, comme ça a été clairement dit, ou est-ce que ce sont les anti-moniteurs, les moniteurs, pardon, qui sont réincarnés, qui sont ces nouveaux dieux du cinquième âge? Parce que, avec Grant Morrison, quelque chose de dit clairement, j'y crois pas. Donc j'arrive à me poser des questions, comme ça, tu vois.
Ouais, non mais je sais même pas, enfin moi ça me j'avais même pas envie de savoir ni envie de m'intéresser aux New Gods quoi. Parce que, après avoir lu ça, je me dis ouais bof et puis voilà quoi, passons à autre chose. Alors, faut quand même préciser que enfin faut expliquer quand même qu'à la fin on voit quelque chose d'important aussi pour l'avenir.
Et oui.
Donc on voit
Bah
Bruce Wayne
oui, voilà.
dans une grotte à la préhistoire.
Finalement, il n'est pas mort, il a simplement été envoyé au début du temps.
Voilà, ce qui fait penser à une autre saga qu'on va bientôt avoir en français chez Marvel. Bon, j'en dis pas plus pour le moment, mais
Donc voilà, pour notre avis global à tous les deux sur Final Crisis, c'est que c'est terminé, tant mieux. On avait reçu une question sur Facebook de Jean Lo qui nous demandait si on avait eu déjà tout le matériel de Final Crisis, enfin en tout cas qui tournait autour, et lui il a trouvé aussi ce crossover bâclé. Il se demande si il y avait des choses complémentaires qui pourraient aider à mieux comprendre. Alors déjà dans Final Crisis, tout simplement, la seule chose dont on n'a pas eu, c'était la mini-série Final Crisis Revelations, qui est écrite par Greg Rucka, et qui avait pour personnages principaux le Spectre et The Question et Batwoman. Donc grosso modo, les personnages qu'affectionne particulièrement Greg Rucka.
Oui.
Mais c'est un petit peu comme Legion of Three Worlds en fait. Ça n'a que vaguement rapport avec Final Crisis et la lecture est totalement dispensable.
Oui. Et de toute façon, ça n'apporte aucun éclairage sur ce qu'a fait Morrison, quoi.
Pas plus, non. Honnêtement, bon, je l'ai pas lu en entier. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais bon, moi, de ce que j'en ai lu, bon, voilà, ça rajoute rien de vraiment pour aider à comprendre, quoi.
Non, bah le seul truc peut-être pour aider à comprendre, c'est fallait lire les New Gods de Kirby, quoi.
Et encore.
Et encore, mais bon, je pense que c'est vraiment le seul truc qui peut aider un peu.
Je ne sais plus qui sur le site nous avait déjà dit qu'il fallait aussi pour essayer de mieux comprendre lire ce qu'avait fait Grant Morrison Seven Soldiers. Moi je les ai toujours pas lus, j'ai pas réussi à trouver le temps malheureusement. Et je dois avouer que lire du Grant Morrison, ça me fait un peu peur. Puisque quand on voit, enfin quand je vois ça, ça me donne pas forcément envie en tout cas. Et alors à ce qui paraît, ça aide à comprendre et ça permet de se centrer sur des personnages qu'on voit comme Frankenstein, qu'on voit passer dans Final Crisis. Mais je sais pas si ça aide vraiment à comprendre ou pas. Donc voilà, sinon moi j'ai pas l'impression qu'il nous ait manqué quoi que ce soit en VO, enfin qui soit inédit en tout cas en VF. Le résultat est quasiment le même que ce qu'on a eu. Donc malheureusement, je crois pas qu'il y ait quelque chose qui puisse nous aider à mieux comprendre et à mieux nous faire apprécier, si on n'aime pas déjà le crossover en lui-même.
Ouais.
À ce qui paraît, le relire, une fois qu'on l'a lu en entier, le relire une deuxième fois, en se lisant les 7 épisodes d'un coup, aide à mieux comprendre. Mais
Ouais, enfin.
là encore une fois, je doute de l'écriture. En tout cas, de la qualité de l'écriture, si on est obligé de le relire une fois qu'on a tout lu, pour tout comprendre.
Ouais, puis en plus de ça, enfin voilà quoi, le problème principal, c'est qu'il y a trop de trucs qui se passent. Et toutes les 3 pages, c'est sur un truc différent, et du coup, on s'attache pas. Il n'y a pas un personnage, tu vois, qui fait le fil conducteur dans la série. C'est ça le gros
Darkseid.
problème.
Darkseid.
Ouais, mais bon, et encore quoi. De toute façon, il dit pratiquement rien. Et voilà quoi. Il aurait fallu un héros qui soit d'un bout à l'autre et qui porte. Tu vois, dans Secret Invasion, tu vois Iron Man, tu vois Captain America, tu vois. Tu vois. Enfin, je sais plus. Enfin, tu vois d'autres. D'autres super-héros quoi, mais il y en a que tu vois c'est récurrent quoi. Tony Stark, il est vachement présent dans Secret Invasion, juste dans la mini-série quoi, des 8. Et là, il n'y a pas ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui reste d'un bout à l'autre quasiment.
Mais en même temps, enfin, c'est deux styles d'écriture totalement différents, donc c'est tellement difficile à comparer, quoi. Enfin bon, donc voilà, bah, ça a conclu Final Crisis et on va pouvoir repartir sur autre chose. Et je dirais, en tout cas, pour moi, tant mieux.
Voilà,
Parce qu'il était grand.
on dit qu'on n'est jamais content, mais là, là franchement, c'est, enfin, on n'est pas content, quoi.
Bah
C'est
si, moi
justifié.
je suis content, moi je suis content que ça se termine, quoi.
Oui, enfin voilà. Et puis de
Je
toute
suis
façon, on
content que ça se
passe à un
termine.
truc vachement mieux.
Oui, on va attaquer tout de suite le reste du kiosque et on va entamer le kiosque Marvel avec cette fois-ci Marvel Universe numéro 20. Donc cette fois-ci, c'est le vrai début de War of Kings, malgré que c'est le troisième, je crois, sur 7 en français,
Ouais,
si ma
le
mémoire est bonne.
troisième est sur oui sur 7, je crois.
C'est le vrai début du crossover. On commence avec les deux premiers épisodes de War of Kings. Scénario d'Anne Abnett, Andy Lanning, comme d'habitude. Dessin de Paul Pelletier et ancrage de Rick Meguiar.
Ouais.
Et puis bah là, franchement, la magie DNA frappe encore, quoi. C'est mais carrément, carrément bon.
Oh, oui, c'est très très bon.
Ce qui est génial déjà, c'est que c'est de la méga guerre parce que ça pète de partout, il y a des vaisseaux qui explosent et tout, et on s'ennuie pas, c'est pas lassant.
Ah non, pas du tout. Non, mais de toute façon, il se passe, c'est bien rythmé, il se passe vraiment pas mal de choses. Bon, bah, de toute façon, ça commence par le mariage de Crystal et de Ronan.
Ouais, qui se trouve est interrompu par la flotte de Vulcain, en tout cas la garde impériale de Vulcain. Et voilà, enfin, c'est plein de trucs comme ça pète de partout, il y a un étalage de pouvoir et de destruction dans tous les sens. Et autant dans d'autres séries mal faites, enfin, pas mal faites, mais en tout cas pas aussi bien faites, on pourrait se lasser rapidement. Je vois par exemple l'exemple avec Hulk, où il y a des grosses bastons à tout bout de champ, plein de personnages qui arrivent et qui se mettent sur la tronche les uns les autres. Et on s'en lasse assez rapidement. Là, il n'y a pas de problème, je peux lire les 4 suivants, ça me lasse pas, quoi. Je redemande la suite avec impatience. C'est ça qui est génial. Je sais pas
Et
comment ils font, quoi, pour faire ça.
est-ce que tu trouves déjà que Vulcain a plus de charisme maintenant? Pauvre Vulcain.
Non, enfin, je trouve pas plus de charisme. Pas plus que la dernière fois. C'est un personnage que je n'aime pas vraiment. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il se prenne une grosse branlée, ce qu'il mérite, quoi. Mais
Ouais.
ouais, parce que je me range du côté des gentils souvent. Mais voilà, mais non, enfin bon, en même temps, j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller.
Oui,
Donc,
bah on va voir. On va voir. En tout cas, Ronan est en sale état déjà.
il a bien mangé.
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses dans cet épisode. Il y a le retour des Starjammers.
Ouais. Mais il y a les Inhumains qui décident de rentrer dans cette guerre.
Ah oui,
Vraiment.
aussi, oui, bien sûr.
Il y a des trucs marrants comme le thème de la résistance encore avec comme on avait pu voir en tout cas dans Annihilation Conquest avec des petites cellules qui essayent d'avoir des gros objectifs. Et là encore une fois, c'est la même chose avec les Starjammers. Ils sont pas beaucoup, mais ils s'attaquent à une flotte complète, quoi. Il y a
Oui.
toujours ce thème omniprésent de pas beaucoup de monde qui arrive à défaire une armée. C'est assez marrant d'ailleurs, je trouve, chez eux.
Oui, c'est un petit peu la petite patrouille de l'espace qui parvient à vaincre toute une galaxie.
Sinon, ce qu'il y a, c'est un autre truc, c'est on sent certains personnages comme Gladiator et Crystal qui ont vraiment des positions bien arrêtées, en tout cas au début. Comme Crystal qui commence en disant bah voilà, je me marie avec Ronan, c'est pour le bien du peuple. C'est vraiment pour améliorer la société, pour donner une image. Mais je l'aime pas, mais voilà. Et on sent que ça évolue. Et pareil pour Gladiator. Je me range aux côtés de Vulcain. Je fais ce que l'empereur dit, quel qu'il soit, même si
Ouais,
ses
exactement,
décisions sont
ouais.
mauvaises. Et on sent petit à petit que le personnage va évoluer. On sent déjà les prémices du changement.
Exactement. C'est un petit peu le Civil War de l'espace, quoi. Ce qu'on voit là.
Donc ça, c'est bien fait parce qu'on sait qu'ils vont changer. On se doute bien de ce qui va se passer. Mais c'est bien amené.
Exactement, ouais.
Donc
Puis,
non, c'est franchement super bon, quoi. C'est pour moi, c'est un des trucs incontournables à lire ce mois-ci.
ouais, et puis surtout, c'est vraiment le mag toujours à suivre, quoi.
Ah bah la qualité descend jamais, quoi.
Et puis, il est surtout bien fourni pour finalement un prix raisonnable, on va dire.
Ouais. Bah c'est l'avantage du kiosque aussi, quoi. C'est que bah c'est moins cher. Mais enfin franchement, ce serait des éditions librairie, ça le mériterait aussi.
Ah bah oui, mais ils vont ressortir tout Annihilation en Marvel Deluxe.
Je ne savais pas.
Ah bah voilà. Bah écoute, c'est prévu normalement pour cette année.
D'accord.
Donc Annihilation en Marvel Deluxe, alors je pense que ça va être les séries principales, Annihilation, et peut-être Conquest aussi.
Si ça marche, peut-être, ouais.
Mais non, mais je pense qu'il y a beaucoup de demandes au fait. Surtout que c'est de plus en plus difficile de trouver, bien sûr, les premiers numéros maintenant de Marvel Universe.
Ouais bah oui, ça m'étonne pas, oui. Enfin, si, surtout qu'en plus, vu que c'est très très bon, voilà, peu de gens vont s'en séparer, je pense. On va passer à la deuxième partie de ce mag, c'est le Guardians of the Galaxy volume 2 numéro 13. Scénario toujours de Dan Abnett, Andy Lanning, dessin de Brad Walker et Victor Olazaba à l'ancrage. Donc là, on a ce qui se passe un petit peu du côté des gardiens qui se rendent compte qu'il y a cette guerre et qui veulent essayer de l'empêcher.
Voilà, qui veulent jouer le rôle des médiateurs, quoi,
Ouais,
en
voilà, ils
fait.
veulent pas prendre part au conflit, ils veulent surtout que la guerre s'arrête le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, déjà, on a aussi le nouveau nom de Phila. On apprend le nouveau nom de Phila qui maintenant s'appelle Martyr,
Ah oui, c'est vrai.
puisqu'elle n'est plus Khazar. Donc voilà. Bon, c'est génial, c'est toujours plein d'humour.
Ah, c'est super
C'est
drôle, oui. Super drôle.
Toujours excellent pour ça. Il y a un petit truc que j'ai trouvé sympa, c'est le nom du bar sur la base des gardiens. Je sais pas si tu as fait
Ouais.
attention, il s'appelle le Starlings.
Ouais.
J'ai trouvé le clin d'œil sympa, bah, c'est le clin d'œil à Jim Starlin qui a
Ah
tellement fait pour
oui, c'est ça. Toutes les
l'univers
sagas
cosmique, quoi.
galactiques,
Voilà.
oui.
Et j'ai trouvé ce petit clin d'œil sympa. C'est des genres de petites choses que j'aime bien. On rend hommage gentiment, sans forcément que ce soit trop appuyé. Et puis voilà, c'est toujours agréable, quoi.
En fait, le gros truc de cet épisode, c'est qu'il y a une alliance donc entre les gardiens de la galaxie et puis les Starjammers d'Avok.
Enfin, une partie des gardiens, en fait.
Une partie des gardiens, effectivement, ouais. Et comme tu disais aussi, ça reste toujours très drôle, donc il y a toujours cette narration comme au début où chacun des personnages prend part
Au débrief, ouais.
au débrief, ouais, de l'anecdote, etc. Et bien alors, il y a aussi une scène entre Rocket Raccoon et j'ai oublié son nom à l'autre. Tu sais, une scène qui s'appelle Tactique, là.
Qui s'appelle Tactique.
Où tu as toute une page où, en fait, où ils mettent en place un plan de bataille.
Ah oui, avec Star-Lord.
Voilà, avec Star-Lord, ouais.
Ouais.
Ouais, quoi.
Magnifique page d'ailleurs.
Ouais, voilà, entre Rocket Raccoon et Star-Lord, qui est super drôle. Il y a aussi, enfin, il y a plein de passages comme ça, quoi. De toute façon, il y en a tellement, franchement, on se marre bien. En 22 pages, il y a tellement de trucs qui se passent que, voilà, c'est toujours, toujours très, très bon.
Moi, j'ai quand même
Réserve.
une petite réserve là-dessus. Ce qui me gêne un petit peu avec l'équipe, c'est qu'elle est toujours séparée.
Bah
Ça
alors.
devient récurrent. On les voit quasiment jamais ensemble. Parce que dans les derniers numéros qu'on avait eus, dans le dernier numéro de Marvel Universe, t'avais une partie, donc t'avais Quasar et Gamora qui étaient partis d'un leur côté. Tu as pas Quasar, pardon, Captain Marvel. Non, comment il s'appelle? Adam Warlock, voilà, pardon.
Oui.
Adam Warlock et Gamora qui étaient partis de leur côté. On avait Drax et je sais plus et justement Philavel ensemble. Et après on avait le reste de l'équipe qui était encore ailleurs. Là ils se retrouvent et aussitôt ils refont deux groupes, un qui va avec les Star Jammers et enfin qui se retrouve en tout cas un peu contre leur gré avec les Star Jammers
Ouais.
et l'autre qui part sur Hala pour essayer d'avoir une audience avec Black Bolt pour empêcher la guerre. Donc
Ouais.
on n'a quasiment jamais cette équipe au complet ensemble.
Bah, il y a un petit côté X-Men, tu vois, avec des groupes différents, des factions qui se créent, etc. Puis bon, ça rajoute un petit peu au côté décousu et totalement absurde de cette équipe, quoi. Ils peuvent jamais s'entendre, ils sont jamais sur la même longueur d'onde, donc bon. C'est un peu inhérent à cette équipe, quoi. Le fait d'être complètement, bah, c'est toujours le bordel avec eux.
Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que du coup, on rate certaines associations de personnages, comme justement Rocket Raccoon et Star-Lord, qui se retrouvent pas dans la même équipe, Drax et Star-Lord, enfin,
Oui, mais
des
ça,
choses comme ça,
justement,
tu vois.
ça peut renouveler un petit peu l'intérêt de l'équipe et des épisodes, puisque après ils pourraient très bien se retrouver ensemble plus tard, et puis ainsi de suite, quoi, que ça tourne.
Par contre, tant qu'il y a War of Kings, l'histoire sur Major Victory va pas avancer, je pense. Donc c'est encore un truc, on verra la suite après. Pareil pour Adam Warlock qui revient en équipe le temps de la guerre et qui repartira s'occuper de cette église là de la vérité après. Donc on sait que les histoires vont reprendre ensuite quoi. Bon, on reste plus qu'à laisser passer War of Kings, mais en tout cas c'est vraiment bon quoi, comme d'habitude.
Ouais. Et par exemple, dans les autres scènes drôles, il y a la scène avec Rocket Raccoon qui croise. Comment il s'appelle? Avok, qui lui demande des nouvelles de son père.
Ouais.
Donc ça aussi, ça m'a fait marrer, puisque ça fait belle lurette que Corsair est mort. Donc voilà quoi. Mais enfin, de toute façon, il y a plein de. Enfin voilà,
Y a
c'est.
la traditionnelle scène de On est les gardiens de la galaxie. Qui?
Oui,
Ça
voilà,
fait
exactement, oui.
toujours rire ça.
Ouais.
Non, encore une fois, un très bon épisode, donc il continue d'embellir le mag. Hein. D'ailleurs, ça va être la même chose avec les Nova. Moi, je les ai toujours trouvés. Enfin, je les ai trouvés aussi bons, je sais pas toi. Donc c'est
Ah
Nova.
si, bah tout est bon de toute façon dans ce mag-là, hein, en plus.
Nova volume 4, numéro 24 et 25. Donc on retrouve au scénario, attention surprise, Dan Abnett Mandy Lanning.
Oh, je m'y attendais
Et
pas.
au dessin, Andrea DiVito pour le 24 et Kevin Sharp avec à l'ancrage Jeffrey Huette et Nelson Pereira pour le 25.
Alors, juste voilà, c'est juste sur les dessins que j'ai bon. Les Nova, les dessins de Nova, je les ai pas trouvés extra, hein, ce mois-ci.
C'est vrai que Paul Pelletier sur War of Kings est très très bon, Brad Walker sur Guardian of Galaxy est bon aussi. C'est différent avec Nova, c'est clair.
Surtout le 24, quoi, en fait. J'ai eu un petit peu de mal, je trouvais pas ça génial, quoi. Mais bon, de toute façon, le scénario est tellement bon que ça compense totalement.
Alors, en gros, c'est là c'est pareil. Enfin, on n'est pas encore vraiment dans War of Kings. Hein. C'est en tout cas pour Nova, c'est vraiment
Ouais,
la
c'est
suite de
un
d'il
peu
y
en
a
parallèle, quand même.
4 mois, je crois. 4 mois ou 6 mois d'ailleurs, je sais plus. Quand justement le World Mind était parti avec Ego et avait recruté plein de nouveaux Nova et
Oh,
ils avaient.
ça commence à remonter maintenant,
Ouais.
ça fait ouais.
Et au début, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est la série, c'est plus Nova, c'est Nova Corp quoi. Ça devrait s'appeler Nova Corp tout simplement parce que on voyait pas Reach et on voyait qu'on suivait que des centurions. On a une très bonne scène. Alors, c'est une espèce de pamphlet quand même sur la guerre et le fait qu'on envoie des jeunes sans expérience faire la guerre quoi.
Ouais, y a un petit côté comme ça, effectivement.
Mais bon, c'est pas trop surimposé comme truc et on se laisse prendre dans l'histoire sans que ce soit genre le gros côté moral. Donc voilà, mais bon, il y a pas mal de bonnes choses. Et quand Nova Quasar, enfin Rich Quasar, on va dire,
Ouais.
débarque, voilà, les choses reprennent leur cours.
Et oui, puis que comme tu disais, c'est un petit peu en parallèle de ce qui se passe dans War of Kings, puisque au fait, mis à part la présence de comment il s'appelle, de Guardian, non, comment il s'appelle le punk là,
Le
avec sa
punk.
super coupe,
Ah, Gladiator.
Gladiator, voilà. Mis à part la présence de Gladiator, voilà, il n'y a pas trop de lien avec War of Kings. C'est surtout la confrontation entre Richard et puis le World Mind, quoi. Et il y a un petit côté, moi je trouve quand même depuis quelque temps, un petit côté Green Lantern avec tu vois les gardiens qui sont en fait qui sont pas super fiables. Là c'est pareil quoi. Il y a une espèce d'opposition qui s'est installée progressivement entre Nova et le World Mind qui fait un peu penser à ça.
Ah bah bien sûr, ouais. De toute façon, simple, hein. Green Lantern Corps, Nova Corps déjà.
Ouais, bien sûr. Non, non,
Tous
mais en
les deux
fait, on...
forces de police intergalactiques.
Mais il y a toujours, en fait, une autorité supérieure qui au fait, a des... Enfin, qui est un peu l'opposé, quoi. Qui est un petit peu le... Qui va un petit peu à contre-courant de ce que veut le héros. Et donc, voilà, il y a toujours une opposition qui se crée. Et puis, ça va toujours au conflit. Et donc, voilà. Bon, enfin, ça me faisait un petit peu penser à ça, quoi. Mais bon, de toute façon, c'est toujours très bon.
Un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait, on se rend compte que Rich, il peut jamais être tout seul dans sa tête.
Oui, en
Je veux
plus,
dire,
ouais.
dès qu'il a plus le World Mind, il se retrouve avec Quasar.
Ouais.
Et une fois qu'il récupère la Nova Force, il récupère le World Mind et Quasar s'en va, mais il peut jamais être tout seul dans sa tête.
Ouais, il y a de quoi devenir schizo, quoi.
Ah, le pauvre, ouais, c'est clair que ça va laisser des dommages, c'est obligé. Enfin, moi, j'ai trouvé ça drôle, en fait. Un autre truc que j'ai trouvé ça assez drôle, c'est l'interrogateur. Du Shi'ar, enfin du Nova Shi'ar qui a été capturé. Il s'appelle Mentor, enfin, en tout cas c'est le nom qu'on lui donne, mais alors c'est un clone de Brainiac.
Ah ouais,
Ah,
t'as
c'est
raison, ouais.
totalement un clone de Brainiac. Mais de
Ah
toute
ouais.
façon, Abnett et Lanning sont passés sur la Légion pendant un long moment, donc ça a dû laisser des traces aussi. Mais voilà, enfin moi j'ai vraiment vu le clone de Brainiac, le mec est vert, il se dit d'une intelligence supérieure, tout ça. Enfin, c'est vraiment le côté égo surdimensionné, c'est vraiment Brainiac, quoi.
Oui, puis en plus, même la tête qu'il a, effectivement,
Ah oui.
mais je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout pensé à Brainiac, mais ouais, maintenant que tu le dis, c'est super flagrant.
Voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça.
Ouais.
Un petit truc sympa, c'est que le 25, le numéro 25, c'est pas un double. Comme souvent chez Marvel, on a des numéros doubles pour les 25, 50, 75 et 100. Mais alors, malgré tout, c'est quand même un numéro à l'ancienne parce qu'il résout énormément d'intrigues.
Ouais.
Il résout l'intrigue du World Mind et en plus il nous pose les bases d'une nouvelle intrigue qu'on verra plus tard, le retour de Guntharsal. De
Ouais.
Gartharsal, pardon. Gartan. Enfin, je vais y arriver. Donc voilà, enfin c'est vraiment un numéro 25 à l'ancienne, quoi, j'ai trouvé.
Ouais, non, mais enfin, de toute façon, c'est... Voilà, quoi, c'est un petit peu une... On repart sur de nouvelles bases, quoi.
Mais c'est. Enfin franchement, c'est ouais, c'est vraiment un. Au niveau du kiosque, c'est sans conteste le meilleur kiosque du mois, en tout cas pour moi. Même
C'est
avec ce qu'on
souvent
a
le meilleur
fait.
kiosque, de toute façon.
Ouais. Même s'il y avait du bon dans la première partie du mois, c'est vrai que là, ça bat tout à plat de couture, quoi.
Ouais. Puis en plus, c'est pas terminé. Il reste encore une chose.
Ouais, il nous reste alors un épisode tiré du War of Kings Warriors numéro 1, qui s'intéresse en fait à l'origine de Gladiator. C'est scénarisé par Christos Engage, dessin de Mahmoud Ahasrar et ancrage de Mahmoud Ahasrar et de Jeffrey Huet. Donc c'est une histoire d'une quinzaine de pages à peu près.
Ouais, mais qui donne vachement de comment dire de en une quinzaine de pages, il arrive à vraiment à donner une forte personnalité à Gladiator, qui pour moi était un personnage bah
Assez plat, ouais.
assez plat, ouais,
Parce que c'est
toutes
vrai
ces
qu'on le
années.
croise depuis des années et des années. Enfin, je veux dire, il est là depuis les années 75 à peu près. Mais on n'en savait pas énormément sur lui finalement. Et là, là avec ça, on apprend un petit peu comment il est devenu Gladiator et pourquoi il reste derrière l'empereur.
Ouais, il en devient même limite sympathique un petit peu.
Oui, bien sûr, ouais. Mais moi, j'avais déjà ce sentiment de sympathie envers lui déjà dans War of Kings, parce que quand on le voit quand on le voit, je fais ce que dit l'empereur, je fais ce que dit l'empereur, mais on a vraiment déjà l'impression qu'il essaye de se convaincre lui-même de continuer à faire ça. Et
Oui, tout à fait.
bon, avec cet épisode-là, de toute façon, ça nous le montre encore plus. Mais j'avais déjà ce côté sympathie pour lui, donc voilà, ça m'a pas rajouté plus de sympathie, en fait. C'est un personnage que j'aimais déjà plutôt bien, quoi. Bon, après, il a des choix assez étranges.
Faut voir si j'espère au fait qu'il va pas disparaître. C'est ce que je craignais, tu vois, c'est que on donne enfin de l'importance à ce personnage et du caractère à ce personnage pour le faire disparaître ensuite au cours de la saga. Mais donc j'espère qu'il va survivre, quoi.
Ben,
Voilà.
je sais pas, on verra bien. Je pense que les autres numéros, enfin les autres petits épisodes de Warriors, parce que c'était une mini-série en deux parties, mais qui réimprimait ce qui était, enfin qui imprimait en fait pour une première fois sur papier ce qui était sorti, c'était du contenu digital exclusif sur Marvel.com. C'était sorti comme ça à l'époque, et ensuite ça a été ressorti en comic papier, quoi. Donc on en a un sur Crystal, il y en a un sur Blastar, et le quatrième, je sais plus sur qui il est. Donc voilà, je pense qu'on les aura, je pense, dans les autres numéros de Marvel Universe. En tout cas, 2 mois, ça va être long à attendre pour la suite.
Ouais, c'est dommage, mais bon, d'un autre côté, à la rigueur, que ça sorte tous les 2 mois et que pour à peu près 6 euros, je crois que c'est 5,
5,60, ouais.
5,60, pour 5,60, avoir donc pratiquement 6 histoires, bon,
Oui.
pratiquement à 100%, quoi, en fait, en plus d'une qualité qui est toujours indéniable et c'est toujours super bon, donc franchement, voilà, encore une fois, Marvel Universe, c'est vraiment le magazine à suivre.
Ouais, vraiment. Puis bon, surtout que là, c'est un bon crossover et voilà. C'est vrai qu'on a ce sentiment de toujours, toujours, toujours des crossovers. On sort de Secret Invasion, il y avait Final Crisis. Là, maintenant, on repart là-dedans. On a l'impression que ça n'arrête pas, mais celui-ci, quand même, est vraiment, vraiment bon. Donc,
Ah bah de toute façon dans Marvel Universe, tous les crossovers en fait de Marvel Universe jusqu'à maintenant, c'était une réussite. Donc bon, j'espère que ça va durer encore longtemps.
on verra bien, peut-être que ça va se casser la gueule d'ici la fin, mais honnêtement, ça m'étonnerait franchement, parce qu'ils nous ont jamais déçus jusqu'à présent, donc voilà.
Longue
Ok,
vie donc à Marvel
ouais,
Universe.
ouais, très longue même, j'espère.
Ouais, voilà.
On va passer maintenant au dernier kiosque pour ce mois-ci, c'est le Marvel Heroes Extra numéro 2. Dans ce hors-série, une mini-série complète Dark Reign Hawkeye, en 5 épisodes. Le scénario est d'Andy Deagle. Les dessins sont de Tom Rennie et l'ancrage de Scott Hanna, à l'exception du numéro 5, qui a été dessiné par Andrés Guinaldo et ancré par Lorenzo Ruggiero. Et on a retrouvé aussi Anthony Johnston au scénario avec Andy Deagle pour le cinquième épisode. Et c'est d'ailleurs un des soucis, on en reparlera tout à l'heure. Bah franchement, c'est pas une super super mini-série quand même.
Ouais, au fait, moi je dirais que ça, enfin, quand j'ai abordé la lecture, je trouve que ça commence très fort. J'ai bien aimé la première partie. Je me demandais où ça allait aller comme ça. Et au fait, bon, grosso modo, donc on suit Hawkeye, qui au fait Bullseye des anciens Thunderbolts, c'est maintenant Dark Avengers. Et bah il fait un peu n'importe quoi. En fait, il n'en fait qu'à sa tête.
Oui, il décide de tuer, malgré l'ordre de Norman d'essayer de garder un profil bas. Il tue, il se gêne pas.
Voilà, son instinct de tueur reprend le dessus, et en gros, le premier épisode se termine sur une grosse tuerie, puisqu'il sauve des gens, mais après avoir tué les agresseurs, il tue aussi les victimes, et ensuite il est même filmé au fait par une équipe de télé qui là-bas.
S'attaque à l'équipe de télé dans l'hélicoptère et essaie
Voilà.
de tuer tout le monde.
Mais en fait, c'est super musclé, ça démarre vraiment en trombe et au début je me disais bon bah voilà quoi, c'est du pur Andy Deagle,
Ah
parce
bah
que
ça c'est
Deagle.
ouais, c'est spécialiste, hein.
Voilà, c'est vraiment de l'action à tout va et bon, enfin ça commençait vraiment bien, et au fait je pensais que la mini-série allait traiter des retombées de cet acte-là et que ça allait être une espèce de jeu au fait de comment dire de représailles entre Osborn et Hawkeye, et pas du tout.
Mais chose bien aussi que je trouve, c'est que on voit enfin Ben Urich qui s'attaque à Norman Osborn dans cette mini-série.
C'est vrai, ouais. On reprend cette intrigue qui était dans
Dans le
les
tout début du
Spider-Man il y a
Dark
quelques années.
Reign. Oui, puis au tout début du Dark Reign, surtout,
Aussi, ouais.
on le voyait qui contestait Norman Osborn, et depuis, bah, Ben Urich, on le voit passer dans les pages de Spider-Man rapidement, et mais quand je dis rapidement, c'est vraiment très rapidement, quoi, et on n'en entend pas parler, nulle part. On voit des gens qui commencent à s'élever contre Norman Osborn, mais toujours pas de Ben Urich.
Parce
Et
que Ben
là,
Urich avait écrit un
enfin.
bouquin qui prouvait que, enfin, qui disait que Osborn était le bouffon vert, en fait, il y a plusieurs années. Et puis entre-temps, ça a été démenti par Osborn, et il y a à nouveau cette espèce de statu quo qui veut que les gens ne savent plus, enfin, ne pensent que effectivement Norman n'a jamais été le bouffon, ou en tout cas ils en sont pas sûrs, etc. Alors que ça avait été clairement dit noir sur blanc, mais bon, enfin, voilà, ça
Et puis
c'est
bah,
comme ça.
au-delà de ça, en plus, bah, t'as quand même dit Andy Diggle qui est vraiment terrain connu parce qu'il y a, y a des Black Ops, il y a de la conspiration, il y a tout ça, donc vraiment le genre de thème qu'il affectionne particulièrement. Et je sais pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'on lui a lié les mains et on lui a dit non, tu peux pas faire ce que tu veux, il faut que tu changes de ta fin ou un truc comme ça? Il y a eu un énorme trou, en fait, entre le numéro 4 et le numéro 5 aux États-Unis. Le numéro 4 est sorti en septembre 2009, et le numéro 5 est sorti en mars 2010.
Oui, quand même.
Six mois,
J'ai pas regardé les dates de parution, en fait.
voilà, 6 mois pour nous sortir le numéro 5. En plus, il se retrouve accompagné par quelqu'un au scénario. Alors, est-ce qu'il avait trop de projets en cours et qu'il n'a pas réussi à finir, ou est-ce qu'on lui a dit non, non, tu fais termine pas comme ça, il faut que tu nous gardes le personnage dans tel état d'esprit ou truc comme ça, et que lui n'a pas voulu finir. Enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais finalement, arrivé à la fin de cette mini-série, on se dit bah tout ça pour rien.
Non mais de toute façon, moi, enfin, je sais pas si t'as eu cette impression, mais moi j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une grosse rupture entre le début et ensuite l'intrigue où il a l'impression de devenir fou, il y a plusieurs bullseyes.
Bah, moi encore, j'ai trouvé cette intrigue. En fait, ce qui m'a presque gêné, c'est la révélation de qui était derrière tout ça. À
Son
savoir,
père.
ouais, bon, ouais, voilà, c'est dit.
Non
Ce
mais
que
de
j'allais
toute
dire,
façon on
c'est
s'en
que.
fout, j'allais dire on s'en fout parce que son père, on le connaît, enfin. Déjà en français, les épisodes où en fait il est apparu
Bah, c'est
n'ont
la
pas.
mini-série Bullseye Greatest Hits.
Voilà, et ça n'a jamais été traduit, il me semble, en français.
Ah, là, je pourrais pas certifier, j'ai pas été vérifier ça.
Parce que voilà, donc, mais il me semble que c'est l'inédit en plus, donc.
Bah, moi j'ai trouvé ça malin d'avoir été chercher cette histoire-là, quoi. Malgré tout, je m'attendais en fait à ce que ce soit le vrai Hawkeye qui traque Bullseye. Moi c'est ce à quoi je m'attendais.
Ouais, enfin voilà, enfin
Je
quelque
me suis
chose d'un
dit,
peu.
voilà, il lui a piqué son costume, donc lui, en représailles, il va lui piquer son costume et commettre des crimes. Enfin, en même temps, commettre des crimes venant de Hawkeye, le vrai, ça paraissait un peu fantaisiste, mais je pensais que c'était lui qui essayait de le faire devenir fou, quoi. Et en fait, non, pas du tout.
Et au fait, dans le dernier comic box, ils expliquaient, en fait, ils décryptent un petit peu cette saga. Et ils expliquent qu'il y a déjà eu des épisodes où Bullseye en fait prenait l'identité de Daredevil et Daredevil lui avait pris l'identité de Bullseye.
Oui,
Ils avaient inversé leur identité.
ça, je m'en rappelle.
Je crois que c'est des épisodes de No Senti au fait. Mais donc voilà, et donc moi enfin ça me faisait aussi penser à ça le début avec Bullseye qui voit d'autres mecs comme lui, tu vois, puisqu'il y a eu plusieurs fois des crises d'identité, quoi. Puisqu'à un moment donné, il entendait des voix, il avait une tumeur au cerveau, il devenait schizophrène, enfin voilà, quoi. Il y a tout ce côté-là qui est récurrent chez ce personnage.
D'où le fait
Et
aussi qu'il a de l'adamantium dans la tête, si je me souviens bien.
ça doit pas aider, effectivement. Enfin bon. Et du coup, voilà, quoi. Ça restait sympa, mais disons qu'il y a une rupture dans le scénario au début, enfin je trouve. On part sur autre chose, et puis même si c'est toujours intéressant, bon bah après.
Bah, le problème, encore une fois, c'est comme toutes les autres mini-séries Dark Reign qu'on a eues jusqu'à présent, quel va être l'impact sur le reste? Aucun quasiment.
Ouais. Bah, il y a le retour de Solo. En
Oui,
plus,
voilà, j'allais y venir, ouais. Le retour de Solo.
Alors, en plus, je déconnais en disant ça il y a quelques mois dans un podcast, je sais plus lequel, mais voilà, Solo est de retour, il est dans Hawkeye. Donc rien que pour ça, faut acheter. Non, je déconne, puisque je m'en fous de Solo au fait, mais ça m'a fait marrer de le voir, quoi.
Oui, voilà, c'est marrant de voir des vieilles têtes comme ça. Donc voilà, bon bah c'est pas un truc qui restera dans les annales et
Enfin,
je dirais.
c'est pas mauvais non plus, mais
Ouais,
bon.
voilà, je dirais pas que c'est à éviter, mais enfin, c'est vraiment pas à prendre en priorité, quoi.
Bah, disons que voilà quoi, c'est vraiment une descente dans la qualité, je trouve. Ça commence très bien et finalement ça se termine. Bah, c'est très peu intéressant quoi, en fait, la
Ben,
dernière partie.
c'est
Bon.
simple, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé le côté ça va servir à rien de la mini-série sur les Young Avengers ou la mini-série sur Hawkeye et Mockingbird, ben n'achetez pas ça parce que c'est la même chose. Honnêtement, ça, à mon avis, ça ne servira quasiment à rien. Donc,
Ouais. Sauf si vous adorez le personnage de
après,
Bullseye,
voilà,
quoi.
si vous adorez le personnage de Bullseye, là, allez-y, jetez-vous dessus.
Oui, parce que là, bon, il est quand même très bien transcrit, quoi. Deagle le tient bien, quoi.
Ouais, ça va, ouais. Ça va. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ok, allez, voilà, c'est terminé pour le kiosque. On va passer maintenant à la librairie et on commence par Walking Dead numéro 11. Ce sont les épisodes numéro 61 à 66 de Walking Dead, toujours scénarisés par Robert Kirkman et au dessin Charlie Adlard, donc dessin et ancrage. Donc déjà, première chose, bah Delcourt a une fois de plus merdé, hein. Puisque bah vas-y je te laisse t'en parler puisque toi tu
Oui.
lis la version française.
Ouais, voilà, je lis la version française. Donc, en magasin, je m'étais dit qu'effectivement, fallait que j'évite de voir le résumé à l'arrière. Et malheureusement pour moi, comme un con, je prends le Walking Dead, je le retourne pour voir le prix. Bon, déjà, il n'y a pas le prix dessus puisque ça marche avec un code. Voilà, j'étais doublement baisé et en plus je tombe sur un terme du résumé qui m'en a dit long sur en fait l'histoire de cet
Le
arc, malheureusement.
mot à ne pas lire.
Voilà le mot à ne pas lire. Donc surtout si vous n'avez pas lu encore ce Walking Dead, ce volume de Walking Dead, ne lisez pas le résumé qu'il y a derrière le bouquin. Ne lisez rien du tout. Plongez-vous directement dans l'histoire. Voilà.
Ouais. Ah, c'est vrai que ça fait. Enfin, je comprends qu'ils essayent d'appâter, quoi, mais là, c'est trop, quoi. Ils donnent vraiment toute l'intrigue.
Ouais, il donne une grosse, grosse, grosse partie de l'intrigue de cet arc qui, si on ne la connaît pas, 10 fois plus d'impact, quoi, c'est clair.
Certain. Alors, bah l'arc commence avec un drame, on va dire, ça comme ça.
Ouais, c'est un vrai, ouais, ça commence avec un gros drame dans l'équipe. Donc, je sais pas si on dit lequel, parce que ce serait un peu dommage, mais bon.
On va essayer d'éviter le moindre spoiler, ça va être très difficile, mais on va essayer
Non,
d'éviter le
mais
moindre
enfin
spoiler.
voilà quoi, il y a un drame au sein du groupe de Rick qui va avoir énormément d'impact et d'influence sur les décisions des différents personnages, quoi.
Et d'ailleurs, ça montre à quel point ce monde dans lequel il n'y a plus que des zombies travaille les gens, quoi.
Oui, les rendent complètement fous et les poussent à prendre des décisions super extrêmes en fait. Puisque l'un des personnages va être aussi amené à prendre une décision extrême.
Donc
Voilà.
voilà, enfin c'est vraiment on sent les changements en profondeur, hein. Ça faisait on avait tendance à voir les changements sur Rick, principalement, et là on se rend compte qu'il n'y a pas que lui qui est atteint par ça. Donc petit à petit, quoi, avec des petites choses,
Enfin,
Kirkman nous
on se rendait
montre.
compte quand même qu'il y avait pas mal de gens perturbés dans Walking Dead. Hein. Quand tu vois Michonne qui parle toute seule, qui a une espèce
Ouais, mais
de
enfin.
personnalité, parfois qui ressurgit.
Là,
Enfin, tu sens qu'ils ont tous des failles, quoi.
moi, pour moi, là, je trouve que ça monte d'un cran, en fait.
Ah oui, là c'est l'explosion. En fait, voilà, il se passe un drame qui est un peu une explosion au sein du groupe. Et bon, bah, ça passe ou ça casse, j'ai envie de dire. Ce qu'on peut dire quand même, pour spoiler un minimum, on va dire, c'est que il y a l'arrivée d'un nouveau personnage
Oui,
aussi.
le père Gabriel,
Voilà,
qui est
Père
un
Gabriel.
personnage assez étrange, qui se balade tout seul. Et voilà. Et
Et
il
qui
rejoint
prêche la
le.
bonne parole, au
Ouais,
fait.
voilà. Qui rejoint le groupe, c'est assez bizarre.
Donc évidemment, ils sont méfiants, comme d'habitude. Ils se demandent si c'est pas un piège. Et au fait, ils vont le suivre, bah, jusque dans une église, quoi, cette fois-ci.
Ils vont enfin trouver un nouveau refuge. Mais ça va être de courte durée, puisqu'ils sont traqués, donc d'où le nom de l'arc, hein, qui s'appelle les chasseurs.
Voilà. Donc, est-ce que, par exemple, c'est des gardes du comment il s'appelait, le général, là? Je sais plus comment il s'appelait.
Oui.
C'était le général?
Oui, c'est. Enfin, je sais plus son nom, mais je vois. Le mec qui les avait attaqués dans la prison.
Voilà, donc peut-être, peut-être pas.
Malgré tout, enfin, on va éviter d'aller plus loin pour pas trop raconter, parce que de toute façon, ça va être difficile après de rien révéler.
Ouais, franchement, faut vraiment essayer de l'aborder sans en sachant un minimum, ça aura un maximum d'impact, justement.
Je trouve qu'il y a une sauvagerie dans cet arc qui est vraiment poussée à l'extrême, et elle est autant visuelle qu'elle est mentale pour les personnages, quoi.
Et moins visuel que la scène, par exemple, de torture que Michonne avait infligée justement au général ou à l'ambassadeur, je sais plus comment il s'appelait.
Ouais.
Mais c'est moins graphique tout de même. Mais par contre, la violence, on va dire psychologique, est encore plus présente que jamais quoi, dans ce tome-là. Et c'est vraiment, ouais, là, on monte d'un cran dans la folie et dans le désespoir, quoi.
Et pour tous les personnages, hein, d'ailleurs, hein, parce que y a pas que Rick, hein, comme souvent. C'est vrai que c'est souvent lui qui est amené à prendre des décisions, à essayer d'allier son côté humain, et finalement de se rendre compte qu'il le perd de plus en plus.
Ouais, là, on sent que la situation lui échappe aussi de plus en plus, quoi. Qu'il a moins en moins d'emprise et
Mais y a pas que lui qui vacille totalement, hein, dans cet arc-là. Et c'est ça qui est bien aussi.
ouais, tout le monde pète un câble à un moment ou un autre, on peut dire. Et puis voilà. Puis c'est non, c'est toujours très très bon. Et alors bon, il y a toujours l'intrigue aussi.
Avec les
Un
trois nouveaux
rappel
personnages, oui.
qui, enfin le but du groupe, c'est toujours de rejoindre Washington.
Et d'ailleurs, ces trois personnages prennent aussi un petit peu d'ampleur avec cet arc. Pas énormément, mais ils ont un apport, notamment le scientifique qui arrive aussi à soigner les blessures, et ça peut être un gros avantage pour le groupe.
Voilà, le scientifique est mis à contribution dans cet arc-là. On se rend compte aussi qu'il est un peu bizarre, hein. C'est peut-être le plus bizarre des trois, au fait.
Ouais.
Voilà. C'est peut-être le plus bizarre des trois, puisque, bon, on va pas dire ce qu'il fait, mais c'est. Voilà. Il a des moments assez space aussi, ce type-là. Et non, franchement, c'est très très bon. Et puis alors par contre, l'autre, le gros baraquet qui fait partie du groupe des trois,
Le
là.
militaire, ouais.
Le militaire, autant au début on pouvait croire que bon, c'était plutôt un salaud, autant là il semble anormalement, je dirais, normal, justement, comparé à tout le monde.
Comme il le dit, il apprécie Rick de plus en plus. Et je pense que ça va être le nouveau Tyrese, en fait. En tout cas, un
Oui, voilà.
personnage un peu, voilà, sur qui il peut compter en cas de besoin.
Ouais, c'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment le nouveau Tyrese. Et
Il y
bon,
a...
alors par contre, est-ce qu'il fera plus long feu que l'autre? Je ne sais pas, hein.
Ça, oui, ça on verra. Avec Kirkman et Walking Dead, on peut jamais savoir si tel ou tel personnage va rester longtemps ou non.
Ouais, et puis franchement, ils peuvent disparaître, mais en une page, c'est ça qui est impressionnant. Et là encore, ça va être le cas dans ce volume.
Ah bah, il y a du mort, oui, dans ce volume-là, si, il y a du mort. Il y a une chose, par contre, super importante, je trouve, dans ce volume. On va en parler. Bon, c'est pas un énorme spoiler, ça ne prend qu'une case, mais c'est pour moi hyper important. C'est le fameux zombie qu'il rencontre dans la forêt et qui
Ah oui, ouais.
s'écroule et qui n'arrive pas à se relever.
Ouais.
Et ça, c'est un gros changement dans l'attitude des zombies. On dirait qu'ils sont en train peut-être de dépérir. Alors, est-ce qu'ils meurent de faim? Est-ce qu'ils dépérissent? On n'en sait pas plus. Mais je pense que ça va avoir une grosse importance pour la suite.
Ouais, c'est comme on se rappelle qu'il y avait un espèce de chat. Alors je sais plus s'il était mort ou pas justement, parce que la question que je me posais depuis de nombreux mois, c'est qu'est-ce que ce phénomène avait comme effet sur les animaux? Et donc bon, bah on a eu quelques indices, mais on n'en sait pas encore plus. Donc je pense qu'il y a, voilà, Kirkman distille toujours plein de petites choses comme ça, et bah au fur et à mesure, on en apprend de plus en plus sur ce phénomène, puisqu'on ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi il y a des zombies partout, quoi.
Est-ce qu'il le révélera un jour? Est-ce qu'il a intérêt à le révéler maintenant? Ça, c'est...
Est-ce que surtout on en saura beaucoup plus quand ils arriveront à Washington? Bah, on
Déjà,
verra.
est-ce qu'ils arriveront à Washington tout
Est-ce qu'ils
court?
arriveront à Washington?
Parce que bon, voilà, vu comment ça décanille vite, on sait jamais. Mais c'est vrai que, je sais pas, est-ce qu'il a intérêt à le révéler? Parce que c'est ce qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir pourquoi. Mais en même temps, s'il nous révèle pourquoi, est-ce qu'on aura le même attachement à la chose? Parce que là, il y a aussi ça qui nous tient, de ne pas savoir pourquoi. Le jour où on le sait, est-ce qu'on se désintéressera pas petit à petit de la série?
Oh, bah, je crois peut-être pas forcément, parce que vraiment le point fort de cette série, encore une fois, c'est vraiment les relations humaines et la déshumanisation justement des
Ouais.
personnages. Et c'est vraiment extraordinaire. Et franchement, cette série, c'est un chef-d'œuvre en ce qui concerne l'étude vraiment des différents protagonistes.
Ah,
Et autant,
totalement,
tu
ouais.
vois, le premier volume, ça démarrait un petit peu sur une histoire cliché de zombies. Autant très vite, c'est devenu un truc vraiment très très fouillé. Enfin, franchement, Walking Dead, c'est l'une des meilleures séries comics
Ah bah c'est un must-read, c'est clair.
de tous
C'est
les
clair.
temps, quoi. Enfin, vraiment, de tout ce que j'ai pu lire au niveau comics,
Ah ouais, complètement.
voilà, c'est peut-être même la meilleure, quoi.
Je sais pas, c'est difficile de dire la meilleure parce
Non, non, mais
que...
enfin, en ce qui me concerne, hein, simplement, je dis ça pour mes goûts personnels, voilà, c'est juste, voilà.
Y a une chose, par contre, que je me demande à la fin de cet arc, qu'est-ce qui va venir ensuite?
Ah
Parce
bah oui,
que...
bah je bah à Washington
Ben oui,
peut-être.
parce que voilà, enfin, je veux dire, il nous reste pas grand-chose, enfin, en tout cas au niveau intrigue. Et je me demande vraiment sur quoi il va repartir après
Ouais, mais
ça.
remarque sur l'arc précédent non plus, hein, il nous restait pratiquement rien à la fin, et puis finalement là, hop,
Oui,
dès les
enfin.
premières pages, justement, il y a ce fameux drame qui relance tout.
Ouais, enfin, on avait déjà, on les voyait déjà qu'ils étaient épiés. Ah, si je me
On
rappelle
voyait
bien
qu'ils
à la fin
étaient
de
épiés, on voyait que
l'arc.
le groupe commençait à se fissurer lentement, puisque Dale en avait marre de Rick, hein, ça se terminait là-dessus, je crois d'ailleurs.
Ouais, enfin, il revenait dans le groupe à la fin.
Ouais, enfin, il en avait ras-le-bol, et puis bon, on sentait qu'il y avait la dissension, il y avait de la dissension dans l'air. Et là, voilà, quoi, ça risque de péter aussi un jour quand même, hein. Il risque d'y avoir deux groupes peut-être un jour
Ah, je sais pas, moi
deux
pour moi,
directions.
je pense honnêtement que les prochains vont peut-être être plus calmes pour nous laisser le temps de souffler avant de repartir sur quelque chose d'autre, le temps qui.
Ou pas, hein, parce qu'avec Kirkman, justement, c'est ça qui est très fort, c'est qu'on sait jamais à quoi s'attendre.
Et puis, malgré tout, quid du prêtre?
Comment ça, quid du prêtre?
Ben, qu'est-ce qu'il va devenir? Va-t-il suivre le groupe? Va-t-il rester dans son église?
Ah oui, bah, je pense qu'il va les suivre, puisque ça devait être un. Je pense qu'il est amené à devenir un personnage au moins récurrent pour quelques épisodes, hein,
Je sais
si.
pas, on aura la réponse dans le prochain tome et honnêtement, il me tarde de le lire quand même, déjà. Pourtant, ça fait pas longtemps qu'on a lu le truc, mais j'ai déjà envie de savoir ce qui se passe
Ah, c'est
ensuite.
totalement addictif. C'est
Ah
vraiment
ouais,
une
vraiment.
série qui se lit le jour même de l'achat. Enfin, tu vois, faut toujours que je le lise
Ah,
directement.
puis en une seule session, quoi. C'est le genre de truc
Ah
que tu poses pas,
oui. Ah
quoi.
oui, non, ça c'est. Faut débrancher le téléphone.
Ouais. Tu le poses en fait quand t'as terminé, c'est tout.
Exactement.
Ah, bon,
J'ai même
donc.
tenté de le relire. Tellement c'est bon, hein, de toute façon. C'est vraiment, vraiment excellent.
C'est vrai que pour moi c'est la deuxième lecture de Star Club parce que je l'avais déjà lu à sa sortie et même en connaissant le truc il est toujours aussi bon en fait mais bon il y a quand même plus d'intérêt quand on connaît pas hein. Vraiment il y a la surprise il y a tout ça
Non, et c'est
voilà
pour ça qu'on essaye de spoiler un minimum, et on a réussi, d'ailleurs.
je pense ouais je pense que c'est pas trop en tout cas bon encore une fois un incontournable quoi.
Ouais, allez-y les yeux fermés, et puis mais voilà, mais surtout quand il s'agit de pas regarder le pitch.
Faut que tu fasses vraiment vraiment attention au prochain tome.
Non, mais maintenant je sais que de toute façon il n'y a pas le prix dessus, donc.
Ok, bah on va rester dans le monde du zombie cette fois-ci avec une nouvelle série chez Delcourt, adaptée de chez Boom Comics, 28 jours plus tard. C'est donc une série régulière chez Boom Comics. On a les numéros 1 à 4 dans ce premier tome, qui s'intitule Selena, je crois, en français. Le scénario est de Michael Alan Nelson, les dessins sont de Declan Shalvey. Bah que dire là-dessus? Moi j'ai trouvé ça sympa. C'est pas, alors c'est sûr c'est pas au niveau de Walking Dead, hein, loin de là, mais bon en même temps il faut laisser le temps aussi au truc de s'installer.
Alors, bon, moi je pensais que c'était à la base un truc, tu vois, qui allait durer 4 épisodes et ensuite on allait voir une autre intrigue dans le même monde. Mais au fait, non, en fait, apparemment ça suit carrément. Enfin, ça suit les mêmes persos. Mais bon, enfin, quand même, on est quand même loin de la profondeur d'un Walking Dead, hein, quand
Bah,
même.
déjà rien qu'à cause des réactions bizarres des personnages, quoi.
Oui, enfin c'est bon.
Ouais,
Enfin déjà bon, le scénario. Donc on retrouve en fait l'un des protagonistes de 28 jours plus tard, donc le film. Ça se situe quelques temps après le premier épisode, le premier film,
Et avant le deuxième aussi.
et avant le deuxième. Et c'est donc une nana dont je me souviens plus trop d'ailleurs. Alors qui me fait furieusement penser à Michonne. Hein, toi aussi.
Bah, c'est le côté black, peut-être aussi. Hein.
Et puis, non, mais c'est aussi
Et
découpé avec
la
les,
machette.
toujours avec la machette. Ouais. Parce que là, ça y va, quoi. Elle est pro du découpage de zombies à la machette. Et donc, cette nana-là revient avec une bande de journalistes en Angleterre.
Oui, qui veulent aller dans Londres, essayer de savoir un petit peu comment les choses ont commencé, pensant que maintenant que les zombies sont morts de faim, ils seront moins agressifs.
Ouais, et alors bon, déjà tu vois le pitch est un peu bancal et un peu concon quoi, tu vois,
Ouais.
c'est genre j'ai survécu mais je vais quand même y retourner hein, parce qu'on sait jamais. Donc bon, enfin donc évidemment c'est une catastrophe.
Puis alors bien quoi. Bien.
Ah
Assez
oui,
simple,
non.
on passe d'un groupe de 6, je crois, ils sont au début. À la fin, voilà, il en reste déjà plus beaucoup.
Il en reste plus beaucoup, puis bon,
Et
faut
puis pas en
voir
bel
comment ils se
état.
débrouillent quoi. Déjà, bon, ils font un détour de ouf pour arriver à leur point de, pour
Oui,
arriver
parce
à
que
Londres.
déjà au départ, à la base, ils devaient passer par l'Écosse pour redescendre à Londres par leurs propres moyens, quoi. Donc en gros, 700 bornes à faire.
Voilà.
Ce qui est
Sans
complètement crétin.
l'accord de l'armée, il me semble.
Oui, puisque l'armée contrôle complètement la zone.
Voilà. Donc, bon, déjà, ça sent vraiment le, c'est même pas un plan foireux, quoi. C'est-à-dire, c'est l'opération suicide. Mais bon, ça les empêche pas d'y aller en y croyant. Alors que nous, on est persuadés qu'ils vont se faire avoir, et bah, ça manque pas. Donc voilà. Donc bon, bah c'est après, donc c'est des scènes avec des zombies et encore des zombies.
Et l'armée.
Et l'armée, ouais, qui arrive et quelle arrivée d'ailleurs, une arrivée en
Mais
fanfare.
si on arrive à dépasser ce côté complètement crétin de l'histoire, d'y retourner déjà, parce que bon, enfin ça repose sur des conneries. Enfin, même les réactions des personnages sont un peu connes.
Oui,
La
il y a le
scène
mec.
où ils sont sur le bateau et que y a toute l'armée qui arrive et qui fait ce style non 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 vous y allez pas et on y va quand même. Je suis désolé, au bout d'un moment faut arrêter quoi.
Là, oui, là, c'est vraiment des cakes. Et il y a aussi le mec qui tombe aussi, par exemple, dans une cage d'ascenseur. Enfin, vraiment,
Ah oui, il est con quand même.
enfin, c'est, oh, il fait noir. Oh, bah, j'y vais quand même. Oh, bah, merde, j'ai pas pied. Oh, bah, je tombe. Et puis après, en plus, il tombe tout droit. Tu sais, il se casse pas la gueule comme toi et moi. Si on tombait dans un ascenseur, enfin, dans une cage d'ascenseur, on serait au moins par terre, quoi. Tu vois, le mec est debout.
Malgré tout, bon, si on arrive à dépasser tout ce côté totalement délirant,
Oui, quand même, on peut le dire.
dans l'ensemble, ça reste plutôt sympathique, quoi.
Ouais, non, enfin, disons que c'est divertissant, quoi. C'est vraiment un bon divertissement de série B.
Oui, voilà. Voilà. La scène où ils sont dans le bar et qu'ils essayent d'attendre le jour, je sais pas pourquoi, mais maintenant, quand je vois une scène dans un bar avec un truc de zombie, ça me fait tout de suite penser à Shaun of the Dead, quoi.
Ouais, y a aussi ça. Non, mais en fait, on a l'impression que c'est, tu vois, c'est plus ou moins une parodie de Walking Dead. Enfin, tu vois, c'est Walking Dead sans le côté justement psychologie bien poussée, bien travaillée.
Ah bah alors
Là, c'est
là,
vraiment des personnages cons.
la psychologie, faut l'oublier déjà, parce que tous les personnages sont complètement crétins. Donc
Oui, voilà, c'est ça. C'est une bande d'abrutis contre des zombies et du coup, bon, évidemment, les zombies marquent quand même pas mal de points.
Bah je sais pas,
Voilà.
moi malgré tout, j'ai été pris dans l'ambiance malgré ce délire.
Ouais, non, mais moi
Voilà.
aussi. Non, mais ça reste sympa. Alors, faut préciser qu'il y a déjà eu au fait des comics 28 jours plus tard avant. Il y en a eu chez
Ouais.
Panini au fait, mais c'était des histoires courtes sur l'univers de 28 jours plus tard.
Et ça
Par
n'a
contre
rien à
là,
voir.
ouais. Par contre là, c'est un ongoing parti pour durer ou
Ben, il y en a, je crois, 9 déjà de sortie chez Boom.
D'accord, ok, donc ouais. Ok.
Donc, ouais, c'est prévu pour continuer, en tout cas.
Bah voilà, donc bon. Bah, j'espère que, enfin, comment dire, le scénario sera peut-être un peu plus travaillé à l'avenir parce que là, je me suis dit que ça allait vite se terminer. En fait, pas du tout.
C'est crétin, c'est brutal, mais voilà, ça se laisse lire, quoi.
Ça se laisse lire. Bon, il y a quand même des scènes sympas, comme tu disais, celle du bar, hein, où y a un truc assez violent, mais on va pas le révéler. Mais
Non,
bon,
non,
c'est.
non. Non, on va éviter, mais bon. Voilà,
Ouais.
c'est. Bon, si vraiment vous avez envie de lire du zombie, quoi. Et
Voilà,
que vous êtes pas
c'est
trop regardant,
un
surtout.
sous-Walking Dead, on va dire, sympa, parce que justement, ça fait quand même marrer.
C'est
Ce
tellement ça
que
devient
Walking Dead
ridicule.
n'arrive pas à faire.
Bah ça en devient ridicule, c'est vrai que ça fait rire à cause de ça.
Voilà.
Bon, alors on va pas perdre de temps en plus là-dessus. On va enchaîner sur du Wildstorm avec Ocean. C'est donc une mini-série en 6 parties, scénarisée par Warren Ellis, au dessin Chris Prowse et à l'ancrage Carl Story. Bah, c'est un Gros thriller SF en fait. C'est comme ça que je le vois.
Ouais, ça aurait fait, comme je te disais, un bon petit film, tu vois, un bon petit
Ouais.
film. Alors, un bon petit film SF, mais le problème, c'est, bah voilà, faut déjà expliquer le pitch de base.
Bah, grosso modo, il y a cette espèce d'inspecteur spécialisé dans les armes de toutes sortes, qui est envoyé sur une station en orbite autour de Europa, le satellite qui tourne autour de Jupiter,
Jupiter.
parce que il se passe quelque chose là-bas. Donc il n'en sait pas plus et il y va. C'est un gars qui est à fond sur comment ses ancêtres voyageaient, parce que ça se passe quand même, c'est très futuriste. On a peut-être oublié de le préciser. Ça se passe dans le futur et comment bah, nous à notre époque on décollait, en tout cas les premiers pas de la conquête spatiale,
Voilà.
ce genre de choses-là, quoi. Et donc il arrive là-bas et il s'aperçoit que la station de recherche qui est là-bas a découvert enfin sous la glace d'Europa tout un tas de cercueils, de sarcophages, je sais pas trop,
Ouais,
qui
c'est ça.
contiennent des êtres vivants, enfin en tout cas qui sont en sommeil, et dont l'ADN est très très proche des humains.
Voilà, ouais. Dans un état donc de d'hibernation prolongée, quoi. C'est une espèce de. En fait, ils sont dans des espèces de sarcophages cryogéniques.
Ouais, voilà, c'est ça. Et pour rajouter à tout ça, il y a autour d'Europa une autre station orbitale qui est gérée par une corporation qui s'appelle DORZ, qui est
Méchante
une
corporation.
méchante corporation qui tire bien sur Windows quand même.
Voilà, oui,
Ouais.
c'est ça qui était drôle, c'était l'allusion à Windows. Enfin, qui est un peu poussé d'ailleurs.
Ouais, un peu trop poussif, mais bon.
Ouais, parce que bon, c'est un peu du cliché de comptoir. Mais donc The Doors, rien à voir avec le groupe
Mais non.
de Jim Morrison.
Donc voilà. Bah, je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans ce truc. C'est bien, les personnages sont bien amenés.
Ouais, c'est
Chacun.
un espèce de côté huis clos dans les premières parties,
Ouais.
je trouve.
Par contre, là où ça chie, c'est la fin, quoi.
Oui, voilà, c'est-à-dire il y a une espèce de montée en puissance. Et puis là, pareil, encore une fois, c'est un comics qui monte en puissance et d'un seul coup, une fin complètement bâclée. Où ça pète de partout, mais il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Il n'y a plus de.
Le problème, c'est qu'en fait, on sent que Warren Ellis a développé son truc petit à petit, et il a pris trop de temps à développer son histoire, et il a dû s'apercevoir que c'était une mini-série en 6 et qu'on pouvait pas lui augmenter le nombre de numéros, et donc il a fallu qu'il termine sur ce sixième épisode.
On lui a quand même augmenté le nombre de pages, hein,
Oui,
parce
d'ailleurs,
que.
le sixième est un double,
Oui.
mais voilà, quoi, il a fallu qu'il termine son histoire en 6, quoi qu'il arrive, et je pense que ça a dû jouer en sa défaveur, parce que voilà, la fin est ultra rapide et presque pathétique, parce que toute l'ambiance est bien gérée, et puis bah là on arrive au sixième et pa 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 ça pète et voilà, c'est terminé.
Et oui, la fin ne justifie pas les moyens dans ce cas-là, puisque. Franchement, c'est une fin vraiment plate comparée à ce que ça aurait pu être en
C'est dommage
étant
parce
bien
que
développé.
voilà, c'est dommage parce que c'était plutôt pas mal, quoi. C'était vraiment plutôt pas mal. Ça
Ouais.
reste quand même une assez bonne lecture. Moi, en tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment à lire ça. Donc,
Bah, on rentre très vite dedans. Il y a une ambiance propre à cette série qui est vraiment intéressante. Et bon, il y a quelques petites réflexions sur. Ouais, les multicorporations, les
ouais,
armes.
alors ça, c'est pas toujours.
Bref, oui, enfin bon,
Ouais,
voilà,
ça.
bon, c'est un petit peu, on va dire, c'est vraiment des ébauches de réflexion,
C'est
quoi.
poussif quand même.
C'est un peu poussif, surtout encore plus avec la fin qui est complètement bâclée et qui fait vraiment film d'action de bas étage, quoi.
Enfin bon, non, ça reste quand même quelque chose de sympathique à lire, quoi. C'est pas.
Oui, néanmoins, c'est un bon moment de lecture.
Voilà.
Alors bon, je sais que Warren Ellis est assez fan de ce type de choses, de SF, mais bon, c'est pas l'une de ses meilleures œuvres non plus, quoi,
Non,
malheureusement.
bah non, non, loin de là. Il y a un truc que je voulais rajouter quand même, c'est la tronche du personnage
La
principal.
tronche?
Oui, la tête de ce mec, l'inspecteur Kane, je crois, il
Oui.
s'appelle.
Oui, on dirait. Vas-y, bah,
Alors,
dis-moi.
pour moi, enfin en tout cas, le premier truc auquel ça m'a fait penser, c'est peut-être parce que c'est en espace, mais pour moi, c'était le commandeur Benjamin Sisko de Deep Space Nine.
Ah d'accord, ouais.
Clairement. Ça faisait aussi penser au mec de Stormwatch, vu que Warren Ellis avait pas mal écrit Stormwatch.
Aussi, ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai que le premier truc que j'ai eu, c'était voilà, c'est le mec de Deep Space Nine, quoi. Pour un truc dans l'espace, c'est ce à quoi ça m'a fait penser.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Bon, après, ça n'apporte rien de plus à l'histoire, c'est juste un truc qui m'a fait rire. Que voilà, je voulais signaler. Bien, bon bah je crois qu'on va passer à la suite, hein. Pas grand chose de plus à dire si on enchaîne.
Non, bah voilà, donc apprendre ou pas, apprendre ou à laisser, bah à voir, hein. Pour les fans de SF éventuellement, mais faut s'attendre à une fin un peu décevante.
Ouais, voilà. C'est
Même
un.
carrément décevante, quoi,
Oui, carrément
comparé à ce
décevant,
que
toi.
ça aurait pu être.
Complètement, ouais, c'est clair. Alors, c'est un bon petit thriller SF qui est. Voilà. C'est le genre de. Ouais, c'est un téléfilm,
Ça
quoi.
pourrait être adapté au ciné, mais faudrait qu'il change la fin, en fait.
Bon, pour moi, c'est un téléfilm en comics, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Allez, on passe à la suite et on retourne chez Marvel avec Daredevil tome 19. Ce sont les épisodes 111 à 115 qui sont dans ce tome. L'arc s'appelle Lady Bullseye. Et comme bah alors oui déjà peut-être les auteurs c'est Ed Brubaker au scénario, au dessin on retrouve Clayman pour le 111, Michael Lark pour la suite accompagné de Tunchi Zonjic pour le 115 et Stefano Godiano à l'ancrage.
D'accord.
Donc comme son nom l'indique bah c'est l'arrivée de Lady Bullseye comme
Lady
personnage
Bullseye, ouais.
donc une féminisation de personnage ce qui est pas toujours très heureux je trouve. Mais bon, là, cette fois-ci, ça, bon, encore la connotation avec Bullseye est assez légère et finalement, c'est plus un hommage qu'autre chose et c'est pas vraiment genre Bullseye qui est devenue une femme, en se faisant
Non.
changer de sexe.
Ouais, voilà, pas du tout. En plus, elle n'a pas vraiment de réelle filiation. Disons que ses origines sont vite expédiées, quand même.
Ouais.
C'est un petit peu un point négatif, tu vois, c'est un peu vite fait, hein, les origines de Lady Bullseye, qu'on ne révélera pas, parce que bon, ça n'a que très peu d'intérêt, en fait.
Bah,
Bon, elle fait penser aussi pas mal à des personnages comme Typhoid Mary,
oui, ou même Electra,
ou même
c'est
Elektra, de toute façon. Mais en une Elektra, on va dire vraiment méchante, quoi, là, puisque bon. Elektra.
ouais, ça oscille entre les deux quand même.
Ah oui, c'est voilà, exactement. Donc bah le pitch. Par où commencer? Il se passe quand même pas mal de choses, mais en même temps, bon.
Il se passe pas grand-chose. C'est peut-être un. Est-ce qu'on devient peut-être trop exigeant à force d'avoir de la qualité sur Daredevil? Parce que bah ça laisse un goût de moins bien quand même.
Oui, au fait, c'est-à-dire que les premiers arcs de Brubaker étaient tellement bons que depuis l'avant-dernier, au fait, le 18, puisque là c'est le 19 en français, le volume, c'est un peu en dessous, quoi. Il y a un petit peu une perte de vitesse, et du coup on voit un peu plus les défauts, quoi, dans ces épisodes. Donc je pourrais y venir tout à l'heure, mais bah, déjà il y a une espèce d'intrigue amoureuse, on va dire, qui se noue entre Matt Murdock et
Dakota,
Dakota.
ouais. Bah,
Qu'on sentait un petit peu venir.
ouais. Moi, en même temps, je l'attendais, hein, honnêtement. J'attendais que
Voilà.
ça.
Voilà. Moi, franchement, j'aime bien son personnage. Hein. J'aime bien Dakota. Donc je suis content de voir ça. Et voilà, ça me plaît bien, cette intrigue. Bah, le problème, c'est que y a une scène où, au fait, Dakota et Matt Murdock couchent ensemble. Et il se trouve que ils sont pris en photo. Alors, le problème que j'ai avec cette scène, c'est que. Bon, déjà, ils sont pas du tout discrets, quoi. Ils font ça limite devant la fenêtre. Bon. Ça, on voit souvent ça dans les films américains, etc. Ça fait un peu cliché, mais bon, ça revient souvent. Mais moi,
Bah,
ce qui me gêne vraiment
le
là-dedans.
lit est dans la chambre, enfin, il y a une
Oui.
fenêtre dans la chambre, il y a le lit. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de volet, donc...
Oui, voilà. Enfin, bon, à la rigueur, tu peux mettre un rideau. Enfin, enfin,
Ouais.
voilà, quoi. Enfin, bon. Pour ce genre de choses, voilà, quoi. Tu sais, généralement, tu penses quand même à pas faire ça, aux yeux de tout le monde. Mais là, le problème que j'ai, c'est que quelqu'un les prend en photo, ce qui aura d'ailleurs pas mal d'incidence, mais Matt Murdock, qui normalement a un sens radar super développé, etc., n'entend pas par exemple, le bruit de l'appareil photo, quoi. Il se rend compte de rien.
Ouais,
Donc.
ça, moi, c'est un détail qui m'avait pas. Enfin, j'avais pas fait attention à ce détail-là quand je l'ai lu. C'est quand on en a parlé un petit peu tous les deux avant. Et effectivement, ça pose un problème, c'est sûr. Mais j'avais pas fait attention à ça.
Moi, justement, j'y ai fait attention directement. En fait, quand ensuite ça a des répercussions et qu'il se dit, ah mince, on nous a pris en photo, etc., etc., Bah là, je me suis dit, bah oui, mais mon pauvre vieux, comment ça se fait, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc je pensais que ça allait t'expliquer, je pensais qu'on allait nous dire que effectivement quelqu'un avait brouillé ses sens, etc., etc. Et au fait, pas du tout, pas du tout. Je sais pas, c'est pas expliqué. Et, franchement, c'est un gros problème, quoi, parce que Daredevil, normalement, enfin c'est la base du personnage, quoi. Il vraiment, il entend une mouche voler. Enfin, j'exagère à peine, quoi, mais à 1 km. Donc bon. Là vraiment quelqu'un qui essaye de le prendre en photo à son insu, normalement il s'en rend compte quoi. Il réagit, il fait attention, on est épié, il se passe quelque chose, enfin voilà quoi. Et là rien du tout.
Ouais, c'est vrai que ça.
Alors, encore une fois, c'est ce que je te disais aussi avant l'enregistrement, il y avait peut-être d'autres détails comme ça dans les premiers arcs de Brubaker, mais que j'ai pas relevé, parce que là, je l'ai peut-être vu parce qu'il y avait une petite baisse de régime. Au fait, il se passe pas énormément de choses, enfin. Enfin voilà quoi, c'est un peu du déjà vu en fait, je dirais. Du déjà vu dans Daredevil, c'est ça le problème.
La fin est
Bah oui, voilà, la fin c'est tout l'intérêt du truc quoi.
super intéressante et c'est une super bonne idée.
Ouais.
Ah, maintenant,
Ce qu'on
faut
dit.
voir comment. Non, non, on n'en parle pas.
Bon, on n'en parle pas. Mais enfin, en
Ouais.
tout cas, à voir comment ça va être développé effectivement. Et faut peut-être préciser aussi qu'il y a un nouveau personnage qui fait son apparition, c'est
Oui.
l'espèce de.
Master Izzo.
Voilà.
Mais justement, je voulais venir aux guests aussi, parce qu'on a pas mal de guests. On a Iron Fist, on a Black Tarantula, on a White Tiger qui passe, et donc ce fameux Master Izzo. Et à l'instar de Lady Bullseye, je trouve que ce personnage qui sort de nulle part est peut-être trop puissant.
Oui, et puis il est énervant surtout. On a envie de lui foutre une grosse claque parce que c'est l'espèce de vieux maître, tu sais, qui arrive et qui dit, oh petit scarabée, tu ne sais pas encore voler, etc. Et puis il raconte n'importe quoi et t'as envie de lui dire, oh, hey, oh coco, hein, tu débarques de nulle part, tu vas te calmer tout de suite. Allez, je te fous 3 tartes et tu fermes ta gueule. Parce que franchement, c'est le. En plus, bon, il a toujours raison, quoi, parce que forcément, c'est le vieux sage, etc. Mais c'est toujours énervant les personnages comme ça, quoi.
Moi, un autre truc qui m'a gêné un petit peu, c'est de savoir bah, finalement que il n'est pas étranger à Matt Murdock, puisque on apprend qu'il a entraîné Stick.
Voilà, Stick, qui était donc le maître de Matt Murdock, un personnage qui avait été rajouté d'ailleurs par Miller dans, alors je sais plus comment ça s'appelait cette saga,
Bah, c'était.
dans les années 90, je sais plus,
Donc voilà, enfin. Je sais pas. Entre Lady Bullseye qui arrive, qui est super balèze, qui arrive à tromper à Matt Murdock simplement avec son sens, quoi. Il n'arrive pas à savoir si c'est elle au niveau des battements du cœur, etc. Et Master Izzo qui est le maître de Stick et qui est super méga balèze, machin, ça fait deux personnages surpuissants qui arrivent d'un coup.
Ouais, sans vraiment d'explication, quoi, tu vois, c'est ça qui pose problème.
Ça fait un peu cheveux sur la soupe, quand même.
Ouais, ça fait un peu cheveux sur la soupe. Bon, et en même temps, il réutilise quand même des persos qui sont chers à Daredevil. Par exemple, Iron Fist a fait de nombreuses apparitions
Bien sûr.
dans Daredevil depuis qu'il y a
Et
Brubaker et
puis
Bendis.
parce que Brubaker avait écrit la série aussi Iron Fist au départ,
Oui,
donc
en plus, bien sûr.
voilà.
Et White Tiger, pareil, hein, Bendis a utilisé le personnage dans l'un de ses arcs, même dans plusieurs de ses arcs auparavant. Donc c'est bien de le réutiliser là, enfin de la réutiliser, puisque c'est une fille maintenant.
Bah après, faut voir ce qui va devenir d'eux, mais quand on voit dans quel état ils sont maintenant.
Ouais, enfin. Ouais, c'est vrai que bon, bah, en même temps, il servait plus tellement à grand chose, donc c'est pas très grave, mais faut voir, faut voir. En tout cas, bon, il y a quelques trucs sympas, mais il y a un petit peu une baisse de régime. De même qu'il y a une baisse de régime sur Captain America depuis quelques mois. On a l'impression que Brubaker d'un seul coup était moins inspiré sur ces deux séries.
Mais il en
C'est
fait peut-être
dommage.
un peu trop.
Bah ouais, peut-être un peu trop. En fait, il y a toujours des scénaristes comme ça. On veut qu'il reste, on veut qu'il reste, on veut qu'il reste. Donc il reste des années finalement. Et bah à force de rester, finalement, ils font plaisir aux fans, mais en même temps, ils ont plus grand-chose à proposer. Donc en fait, il y aura un arc encore de Brubaker sur Daredevil.
Il reste 3 épisodes seulement de Brubaker,
Voilà.
ouais.
C'est l'arc Return of the King. Donc voilà.
Et donc le fameux épisode 117, enfin 116, 117, et puis surtout le 500.
Le 500.
Alors je sais pas comment ça va être publié après pour les prochains en France, parce que ça risque de faire un 100% assez, assez léger, quoi. Même si le 100 est assez gros, ça va faire assez léger, je pense.
Ouais,
Le
ouais,
problème, c'est que s'ils
je...
tapent dans la suite, ils vont entamer un arc, ils vont être obligés de couper en plein milieu, je sais pas comment ils vont faire.
Je sais pas s'il y a eu des one-shots, des trucs comme ça qui sont sortis,
Ah,
parce qu'il y en avait
il en
un
reste peut-être, ouais, je sais
dans
pas.
le précédent, il y avait le truc sur Tarantula, là. Donc peut-être qu'il y a eu un des one-shots, je sais pas exactement. Mais bon, enfin, c'est toujours C'est toujours pas mal,
Non,
hein.
mais c'est vrai que c'est bien, mais c'est vrai qu'on devient exigeant en fait avec Daredevil. On attend un certain niveau de qualité et quand c'est un petit peu en dessous, tout de suite on se dit, ah, oh, c'est moins bien.
Voilà,
Mais
c'est
ça
d'autant plus
reste bien,
flagrant.
ça reste une bonne lecture. Il y a aucun, enfin, c'est sûr que c'est mieux. Par exemple, un truc comme Motion, c'est peut-être aussi parce qu'on est plus habitué au personnage. Mais voilà, enfin, je veux dire, ça reste bon, même si c'est quand même moins bon.
Voilà. Mais ça présage quand même de bonnes choses.
On verra la suite. Et ensuite, après Brubaker, on va avoir Andy Diggle sur le titre pour pas très très longtemps, mais on verra ce que ça va donner, quoi.
Voilà.
Bien, on va passer au dernier tome de librairie dont on va parler ce mois-ci. C'est le Iron Fist, tome 4. Dans ce tome, on a deux histoires principales. La première, c'est l'arc de Mortal Iron Fist, qui était publié donc dans les numéros 17 à 20. C'est aussi l'arrivée d'un nouveau scénariste, Dwayne Sperzinski, on peut voir sur 4 tous les mois. Et au dessin, on a Travel Foreman et Russ Heath. Bon, alors c'est franchement un bon arc. Moi j'ai vraiment accroché. C'est vrai qu'il y a une différence avec le style Brubaker, qu'on avait pu voir avant sur le tournoi, etc. Mais j'ai vraiment accroché cet arc-là. Le pitch de l'arc, c'est que bah, Danny se rend compte que tous les Iron Fist sont morts à l'âge de 33 ans, sauf un, Orson
Oui,
Randall.
parce qu'il a appris il y a peu de temps qu'il y avait eu plusieurs Iron Fist aussi, il faut
C'est vrai.
préciser que.
Depuis le début de la série, grosso modo.
Voilà, oui.
Et donc ils sont tous morts à l'âge de 33 ans. Et donc lui, bah, quand l'arc démarre, c'est son anniversaire. C'est 33 ans. Donc voilà. Et là, il s'aperçoit qu'il y a une espèce d'entité qui vient lui arracher son cœur pour essayer en tout cas de lui arracher le cœur pour aller se nourrir enfin pour le tuer puis aller se nourrir du dragon Iron Fist, enfin le dragon duquel ils tirent leur pouvoir.
Voilà.
Donc voilà, c'est franchement hyper intéressant. Maintenant, le petit souci, ce serait peut-être les dessins qui
Ouais, il y avait vraiment des passages où genre, je sais plus dans lequel surtout, peut-être dans le 18, où j'avais envie de dire franchement Stroman sort de ce corps, quoi. Parce qu'il y avait vraiment des dessins, des planches qui me faisaient penser à du Larry Stroman. Sur X-Factor, il y a vraiment des fois où ils ont des têtes et des corps tout bizarres. Bon, enfin voilà, c'est ce qui m'a un petit peu gêné, quoi, à la lecture. Mais
bah ça nous change de
bref.
canot quoi. Parce qu'on avait l'habitude, c'est vrai, dans les épisodes d'avant, d'avoir bon, d'autres artistes, mais c'est vrai qu'on avait Cano qui avait un super style. Et là, bah, on a changé et
Ouais, ça correspondait bien à Iron Fist, je trouve. Et là, je sais pas quoi, c'est un peu bizarre, j'ai du mal à m'adapter, mais bon, voilà quoi, c'est un style auquel j'accroche pas tellement. Par contre, c'est sûr que l'histoire est intéressante, on a envie de savoir comment il va s'en sortir, est-ce qu'il va disparaître, enfin bon, on se doute que non, mais comment il va faire, etc., etc. Et voilà, et puis bon, on en apprend plus aussi sur les Iron Fist des autres époques.
bah, notamment un qu'on suit, hein,
Voilà.
en particulier à l'époque du western, en 1860, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et voilà, enfin, il y a cette ambiance Iron Fist encore. Bon, après, si, c'est vrai que si on n'aime pas trop le côté. Enfin, si on n'a pas aimé les arcs de Brubaker, peut-être que celui-ci serait l'occasion de s'y mettre, parce qu'il y a quand même une nette différence. Mais je trouve la série toujours bonne. Et je pensais pas que Swarzenski s'en sortirait comme ça.
Ouais, c'est vrai que voilà, c'était un gros challenge de prendre la suite de Brubaker, et franchement, il s'en sort avec les honneurs. Hein.
Donc,
Donc
bon, il y a des choses sympas. Hein. On avance un petit peu sur l'histoire de la 8e cité aussi. C'est très léger, mais on avance. Il y a le retour des Immortal Weapons, que j'aime beaucoup comme personnage, qui ont vachement de style. Voilà, enfin. Puis il y a du combat, il y a. Enfin voilà, ça pète, et en même temps, il y a pas que de l'action, donc.
Non, on sent qu'il maîtrise bien la mythologie d'Iron Fist aussi. Pour quelqu'un qui débarque comme ça sur le titre, il tient bien déjà le personnage et son univers, donc c'est une bonne chose.
Par contre, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'on voit ce qui se passe dans 10 ans et que dans 10 ans, on sait que Iron Fist sera mort.
Ouais, enfin bon, en même temps, dans les comics, les
Oui.
10 ans, même dans 15 ans, dans 20 ans, les 10 ans sont toujours pas passés, et au fait, voilà quoi.
Bien sûr, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il sera pas toujours là et qu'il est destiné à mourir, quoi.
Enfin bon, en même temps, on se doute bien que Spider-Man mourra un jour, et cependant, on sait très bien qu'on le verra pas, quoi.
Ah bon, voilà. Un truc que j'ai trouvé sympa aussi de la part de Dwayne Swazinski. Enfin, je sais pas si c'est Swazinski ou si ce sont les dessinateurs qui ont fait ça. Dans la toute première, dans le tout premier numéro, la scène où il y a son anniversaire, en fait, la double page où il y a tous ses amis réunis. Au premier plan, on peut voir Brubaker et Fraction côte à
Ah
côte.
d'accord, ok.
Le mec avec le chapeau, c'est Brubaker. J'ai trouvé ça sympa, en fait, de faire un petit clin d'œil comme ça, de montrer les scénaristes précédents.
Ouais, effectivement, ouais, c'est sympathique. Non, ouais, c'est marrant. Non, mais il y a plein de petites. Enfin, il y a même des moments où qui prêtent à sourire. Hein. C'est pas totalement. Comment dire?
Ah,
C'est
c'est
pas
pas totalement
totalement
noir.
sombre et.
Un truc par contre où je me pose la question, c'est la fin en fait. C'est sur la toute fin, donc attention, on va spoiler un petit peu. Le dragon s'éveille à la fin, alors que Danny est toujours vivant.
Alors je sais pas s'il peut se manifester effectivement.
Du coup, je pense que c'est peut-être jamais arrivé, puisqu'ils sont tous morts à l'âge de 33 ans. Mais je sais pas ce que ça va donner, quoi. Et je me demande d'ailleurs bien ce que ça va donner.
Ça va changer le futur, comme ça il mourra pas.
Je sais pas. Donc non, enfin voilà, moi j'aime toujours autant cette série et j'ai hâte de lire la suite. Ce qui me déçoit, c'est de savoir que la série va bientôt s'arrêter, puisqu'elle s'arrête, je crois, au 27. Elle était censée faire un petit break et donc pendant quelques mois, on a eu un one shot différent sur chacune de ces Immortal Weapons. Mais la série était censée revenir et les one shots sont terminés depuis un bon moment et la série n'est toujours pas revenue. Il n'y a toujours pas de rumeurs comme quoi c'est prêt à revenir. Et ça m'inquiète un peu du coup.
Bah c'est ce que je te disais, il y a des séries comme ça qui s'arrêtent, qui trouvent pas leur public, c'est comme le Spider-Woman de Bendis et Maliv, qui aura uniquement compté que 7 numéros et puis c'est tout. Et on aura, je crois, les 5 premiers en août. Bah alors du coup, je pense qu'ils vont sortir les 7 en français, je sais pas.
Ça sera peut-être repoussé un peu, ouais, pour sortir tout d'un coup, je sais pas.
Du coup, ouais, sans doute. En tout cas, c'était prévu pour août à la base, et puis entre-temps, effectivement, la série a été annulée aux États-Unis, donc.
Le mois dernier, je crois, ou ce mois-ci, je sais plus.
Ouais, enfin c'est relativement récent. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui disparaissent, et tu me disais tout à l'heure, d'ailleurs c'est inquiétant, que même le monde cosmique pourrait être mis
En hiatus, ouais, à voir s'il
en
revient, ouais.
hiatus pendant un petit moment. Donc j'espère que il y aura suffisamment de demandes pour que ça redémarre très vite et que surtout que ça redémarre tout court, quoi.
On verra bien. Mais donc c'est vrai que c'est dommage de savoir que on va peut-être s'arrêter alors qu'il y a un hiatus de prévu, donc que l'histoire n'est pas forcément terminée et que ça reviendra pas, quoi. Donc en tout cas, pour le moment, c'est toujours pas prévu. Bien, on va passer au deuxième épisode de ce tome. C'était un épisode spécial sur Orson Randall, comme on avait déjà eu dans les tomes précédents. Celui-ci s'appelle Orson Randall and the Death Queen of California. Toujours scénarisé par Swierzinski, dessiné par Giuseppe Camuncoli et ancré par Victor Olazabal. Donc là, c'est clairement l'ambiance pulp, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, tout à fait.
Et c'est vraiment, vraiment sympa. Comme le premier one-shot sur Orson Randall était sympa, celui-ci est vraiment sympa aussi, quoi.
Ouais.
Ça diverge de l'histoire principale, mais c'est pas grave.
Oui, c'est agréable quand même. C'est rafraîchissant aussi de.
À savoir qu'aux États-Unis, en fait, celui-ci a été publié entre le numéro 18 et le numéro 19. Mais bon, voilà, enfin, il se. Même si pendant un mois on n'avait pas d'Iron Fist, on avait ça, c'est pas gênant que l'histoire parte pour nous offrir une histoire comme ça, c'est vraiment sympa. Et c'est peut-être la force justement d'Iron Fist, c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a eu des Iron Fist dans le passé tout au long de l'histoire, enfin, en tout cas depuis le 11e siècle je crois, on peut avoir des histoires de n'importe quel style, quoi, comme on a eu les flashbacks sur le Iron Fist du Western. Comme on avait eu aussi un numéro spécial sur une Iron Fist en Chine pendant 1600 et quelques. Donc
Ça me
voilà.
fait penser tout ça, ça me fait penser un petit peu à Witchblade. Je sais pas si tu avais lu les Witchblade, mais à un moment dans Witchblade,
Un
au
petit
fait, elle
peu, ouais.
apprenait que plusieurs personnes avaient porté son gant avant elle, et puis
De même que Spawn, hein.
de même que Spawn, exactement, puisqu'il y avait un Spawn dans le Far West il y a quelques années. Effectivement, ouais. Donc c'est une espèce de tout ce qui est un petit peu mystique comme ça, tu vois, les pouvoirs un petit peu mystiques. Il y a toujours plusieurs incarnations à différentes époques, et bon, voilà, c'est un thème. Qui aussi revient de temps à autre.
Mais non, je sais pas, le truc est vraiment pulpy à mort. C'est moitié pulp, moitié polar. Non, franchement, c'est super cool. C'est vraiment super cool, c'est une bonne histoire là encore où on a donc Orson Randall qui se retrouve face à une boîte de production de cinéma un peu louche.
Oui, un peu véreuse, quoi.
Ouais. C'est marrant parce que moi je m'attendais pas en fait à cette fin là, je voyais ça autrement.
Oui, moi aussi, oui.
Et
Non, enfin voilà, c'est un épisode qui m'a fait marrer, moi, pas mal.
un bon épisode. On a vraiment deux histoires différentes, mais qui sont vraiment très bonnes toutes les deux, quoi. Bon, je sais qu'à la fin, il y avait apparemment The Origin of Danny Rand qui était publié. Enfin, en tout cas, ça va être les deux premières pages du magazine américain, puisque la version américaine, il y avait deux pages, écrite par Matt Fraction et dessinée par Kano, qui réimprimait en version recolorisée le Marvel Premier 15 et 16, qui étaient les deux premières apparitions d'Iron Fist. Donc je pense qu'ils ont dû mettre juste les deux pages inédites, mais voilà, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà. Mais donc non, bon, encore une fois, un très bon Iron Fist et encore une très bonne lecture. Donc ça va, ce mois-ci, plutôt agréable quand même, il y a du bon, il y a un peu de moins bon, mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bon.
Ouais, non, dans l'ensemble, c'est même très très bon, et la seule déception, c'est les fins des arcs de Morrison, quoi. Enfin voilà, quoi,
Bah,
c'est sur le DC, le
les deux
kiosque
kiosques
DC.
d'essai, ouais, ce mois-ci. Bon, bah.
C'est un petit peu le désastre, là, mais bon, enfin, ça va redevenir, ça devrait redevenir pas mal avec la suite, en français.
On espère. Ok, bon, c'est tout pour nos reviews. Avant de terminer, j'avais demandé sur Facebook si jamais des gens avaient des questions à nous envoyer. On nous a donc envoyé
Encore des menaces de mort, il faudrait que ça stoppe.
deux petites questions. Alors, une première, c'était sur le concours d'Avatar. Donc, comme j'avais dit, pour le moment, je le mettais en hiatus jusqu'à ce que Mig revienne. Donc, vu qu'il ne va pas revenir, je vais repenser au concours, je vais réorganiser ça autrement, et je vous en reparle très prochainement.
Et vous gagnerez peut-être un porte-clés en semelle de tong de Steve à la place des comics.
Oui. Non, non, ce sera d'autres lots, puisque les Monster Dark Reign et les Monster et le Monster le Big Book pardon Final Crisis ça commence à devenir un peu vieux donc ce sera d'autres lots à gagner. Je vous en parle très prochainement dès que faut que je repense le truc et puis peut-être le mois prochain. Je promets pas encore mais j'en reparle très très prochainement. L'autre question c'était donc d'un auditeur qui s'appelle Arnaud. Qui nous dit qu'il suit notre podcast depuis un petit moment et qu'en fait voilà son projet ce serait d'ouvrir une librairie spécialisée en comics d'import VO mais aussi en faire de la VF, de la BD franco-belge et de l'indé et donc il souhaiterait ouvrir cette boutique du côté de Bordeaux ou de Montpellier. En fait il nous demande si vous auditeurs vous connaissez un petit peu ces villes. Ce qui pense de l'ouverture d'une nouvelle boutique et enfin ce que vous pensez pardon d'une nouvelle boutique, ce que vous aimeriez y trouver, le quartier idéal, voilà quoi. Donc vous pouvez nous envoyer vos réponses à l'adresse podcast@comicsity.fr. Nous on lui transmettra vos souhaits ou par le biais des commentaires aussi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc que pensez-vous d'une nouvelle boutique, soit à Bordeaux, soit à Montpellier, dans le comics et la BD et, qu'est-ce qui serait bien pour vous, quoi, dans ce genre de boutique? Voilà.
Enfin, si vous êtes de la région, et puis
Oui, bah, oui, surtout ça.
si vous êtes de Bordeaux, bah faut faire péter le compteur, et si vous êtes de Montpellier, faut faire péter le compteur pour que sa boutique s'installe chez vous, parce qu'elle ne veut pas s'installer aux deux endroits. Par contre, ouais, je regardais hier, c'est ce que je te disais, Steve, il y a dans les deux villes, en tout cas, toujours un album, donc magasin album. Donc voilà, donc c'est aussi pas forcément évident de s'installer
Bah, c'est
dans
la
en
de la
province
concurrence,
quand
ouais.
il y a déjà une grande enseigne, en fait.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et nous transmettrons à Arnaud toutes vos réponses.
Oui, de toute façon.
Voilà. Donc sur ce, ça termine notre spécial. Enfin notre spécial, qu'est-ce que je dis moi? Ça termine notre podcast numéro 30. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours bah, pour la première fournée du mois de mai. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur iTunes comme d'habitude. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur ce que vous avez pensé du podcast, pour simplement pour réagir à ce qu'on a dit. Sur le site, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, vos réactions à podcast@comiccity.fr. Et il y aura un spécial aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, à venir au début du mois de mai, un spécial The Losers. avant la sortie du film, sur le premier Big Book, et puis avant surtout la sortie du deuxième Big Book en juin. Et voilà, et je crois que là j'ai fait le tour, hein.
Ouais, puis on remercie toujours les quelques personnes qui parlent de Comic City autour d'eux, puisqu'on a toujours besoin de ça. Notamment Moupi, hein, de New Kids on the Geek, par exemple, et tous les autres, parce qu'on peut pas tous les nommer, mais enfin voilà quoi. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir, voilà.
Et merci aussi pour vos reviews sur iTunes,
Aussi, oui, c'est toujours très
qui nous
utile.
aident à être un peu plus visibles sur iTunes et donc à attirer d'autres personnes. Parce que c'est vrai que bah, plus il y a de personnes, plus c'est intéressant de faire le podcast, comme toujours. Voilà, donc bah, là cette fois-ci c'est vraiment la fin. Et bah, donc on se retrouve d'ici quelques jours pour le spécial et d'ici une quinzaine de jours pour le régulier sur les premières fournées de VF du mois de mai. Et comme d'habitude, bah, d'ici là, portez-vous bien.
Et lisez beaucoup de comics. Ciao!